Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stories the Podcast, je suis Stéphane Moïsakis et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier parce qu'on prend la suite de Sale Temps pour un film pour parler de Mission Impossible Dead Reckoning, part 1, part 1 avec, comment dire, mon ami Julien Dupuis. Salut Julien.
Bonjour Stéphane.
Voilà, et Alain Mercier derrière la technique qui, comment dire, a vu le film avec nous.
Tout
donc,
à fait.
Du coup, on va pouvoir en parler tous les trois.
Moi, je lui ai demandé de mettre une caméra sur lui parce qu'on est aussi filmé pour ceux qui sont restés sur les podcasts, de mettre une caméra sur lui avec une espèce de fisheye comme ça à la Jean-Marie Poiré quand il intervient, tu sais. Ce serait super. Moi, je trouve qu'il faudrait, voilà.
Non,
c'est
non.
Pour ça, c'est pour des choses comme ça, Stéphane.
Écoute,
les gens, ils doivent typer.
Voilà,
c'est aussi pour avoir
fait,
des caméras sur Alain.
Pour l'instant, la voix d'Alain Mercier, c'est la voix de Dieu.
Tout à fait.
Voilà. Donc, il va intervenir pour dans le débat éventuellement pour nous expliquer la vie. Pourquoi Mission Impossible? Parce que ça sort, hein, en salle, et qu'en fait, finalement, comme on a bouclé Sale Temps pour un film, qu'on n'avait pas pu le voir à temps à ce moment-là, et que l'épisode est sorti de toute façon, voilà.
Oui, et puis que Capture, ça, c'est un truc qu'on a déjà dit plusieurs fois, mais en train de passer un nouveau cap, parce qu'on va changer de studio. Donc, vous allez voir d'autres épisodes de Story après celui-ci, parce qu'on les a déjà enregistrés par le passé.
Tout à fait.
Et ça, c'est le dernier, en fait, qu'on tourne ici, en fait.
Exactement.
Donc, c'est, voilà, on va passer à un studio et tout. Donc, encore raison de plus aussi pour nous soutenir par tous les moyens qui sont à votre disposition, donc financièrement si vous avez les moyens, mais aussi en likant, en partageant,
ouais, en s'abonnant sur la chaîne YouTube aussi, c'est important.
Enfin voilà. Évidemment, quoi. Et donc voilà, et donc on avait envie de parler quand même dessus, c'est un des
bah
événements
oui, parce qu'on
de l'année,
a pu
quoi.
Le voir à le temps. Donc du coup, c'est des films de l'été, c'est probablement le dernier, donc qu'on va traiter avant un bon moment, quoi.
C'est ça, on pourra pas faire Oppenheimer parce qu'on va le voir.
Ah,
tout
on pourra pas faire Barbie dans Stéroïdes. Tu seras très, comment dire, je sais que tu es très déçu. Mais par contre, Mission Impossible, qui est quand même un des espoirs de l'été, hein. Je
ouais,
pense
clairement,
pour beaucoup de gens, quoi. Bah, on en parle aujourd'hui. Alors. Je me tourne vers toi, mon bon Julien, pour pitcher le film. Je suis déjà tourné vers toi, mais je me retourne vers
alors,
toi.
Alors, pour pitcher le film, c'est un peu embêtant parce que on spoil ou pas?
Ah, évidemment qu'on spoil.
Donc on spoil. Donc coupez tout de suite parce que je vais vous dire un truc qui n'a pas sur lequel la communication du film, à ma connaissance en tout cas, n'a pas communiqué. Ça a été pour moi une des nombreuses bonnes surprises en fait du film, c'est-à-dire que en fait il y a un antagonisme et il y a un enjeu dans les Missions Impossibles qui pour le coup vaut le coup. C'est-à-dire que je trouve que tous les Missions Impossibles par le passé, excepté le 1, et j'ai un peu envie, on va revenir forcément sur le 1 notamment pour une séquence je pense, mais le 1 pour moi je le mets un peu à part en fait de la saga, de la franchise. C'est-à-dire que le 1 pour moi c'était pas encore une franchise, c'est vraiment un chef-d'œuvre pour moi de Brian De Palma.
Ouais, ouais.
Et le problème c'est que quand tu ramènes le 1 dans le débat, quand tu parles des autres Missions Impossibles, mais mine de rien comme tu l'as dit on en est au 7e, donc c'est-à-dire qu'il y a 6 autres films, ça invalide à chaque fois le truc. C'est-à-dire que rien n'a vraiment égalé le 1 je trouve par la suite, que ce soit au niveau de la structure, au niveau même des fixes quelque part en fait. C'est vraiment un film à part je trouve dans la saga. Pour beaucoup de raisons, et puis aussi parce que c'est arrivé à une époque où Tom Cruise n'était pas ce qu'il est devenu dès le 2, je trouve, notamment avec cet ego trip incroyable. Donc pitcher, pardon Stéphane, je m'égare. Donc en gros
pitcher le contexte.
Non, mais c'est important quand même aussi d'en parler, je pense. Et sur le pitch, en fait, en gros, il y a une nouvelle menace, un nouvel antagoniste qui se trouve être une sorte d'intelligence artificielle qui s'est en quelque sorte autosuffisante, d'une puissance incroyable, qui peut prodiguer à l'État qui va détenir cette intelligence artificielle là un pouvoir total et absolu. Et donc, comme c'est souvent le cas dans les autres épisodes, la mission Mission Impossible. Alors, comment c'est
Force.
Force, ouais. C'est ça, la MIF.
Force, ouais.
Donc, mené toujours par Ethan Hunt, donc Tom Cruise, décide de détruire cette intelligence artificielle, alors que son propre gouvernement décide, elle, de se l'accaparer.
Son propre patron.
Et son propre patron décide, et aussi son propre patron.
Puisque donc, c'est le retour de Kittredge.
De Kittredge, évidemment. Mais le en fait, en gros, l'idée, c'est ça. Et donc, il y a une force. Alors, encore une fois, ils se retrouvent seuls contre tous. Encore une fois, ils doivent combattre, réussir à trouver à la fois littéralement la clé pour atteindre cette intelligence artificielle, en fait, en tout cas le cœur de cette intelligence artificielle qui est déjà présente partout de plus en plus, et combattre, et c'est l'autre idée que j'adore, en quelque sorte le messie, le bras armé de cette intelligence artificielle qui pour le coup est un humain. Donc en gros, t'as un antagonisme qui est presque donc comme je l'ai dit, hein, j'ai lâché le mot, un peu divin comme ça, qui est partout et nulle part, et donc ça son bras armé qui a lui-même d'autres bras armés, et ils vont donc devoir retrouver deux clés qui donneront accès à cette intelligence artificielle, et évidemment savoir où aller, puisque dans la séquence d'ouverture on t'explique où aller, et en l'occurrence elle est dans un sous-marin russe qui a été explosé dans le
qui s'est auto-explosé puisqu'en fait la scène d'ouverture du film,
voilà, l'intelligence artificielle les a dupés en gros.
Exactement.
Et leur a fait croire qu'il y avait un antagoniste là où il n'y en avait
donc
pas.
Ils ont tiré une torpille qui leur est revenue dans la gueule
parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'autres ennemis
dans une belle scène pompée sur Octobre Rouge.
Ouais, ouais, bon, ouais, je sais pas ça. Mais après le truc c'est que en sous intrigue, on va dire, il y a une nouvelle membre en fait du MIF qui a commencé à apparaître, qui est jouée par
Rebecca Ferguson.
Non,
l'autre. Ah oui. Pardon, tu parlais de
Alain. En fait, Alain, il va. Ne nous souffle pas Alain, finalement.
Alors, Rebecca Ferguson, ça fait déjà trois films qu'elle est là. Elle est arrivée dans Rogue Nation. Non, qui est jouée par Ellie Atwell et qui est une super actrice, moi que j'aime beaucoup.
Ouais, Peggy Carter dans les Marvel.
Captain America dans les Marvel. Et je reste avec Captain America.
Le premier.
Et qui est une espèce de super voleuse et qui se retrouve un peu embringuée là-dedans malgré elle, mais Ethan Hunt va vraiment repérer quelles sont ses capacités et va décider de la joindre en fait, enfin de l'intégrer au groupe du MAF, puisque bon, on retrouve le groupe habituel, donc Rebecca Ferguson, le personnage de Rebecca Ferguson dont le nom m'échappe, mais qui
compte ça.
Et ben, Ilsa, voilà, c'est ça, qui continue d'être une espèce d'électron libre, mais attaché sentimentalement à Ethan Hunt. Évidemment, le personnage joué par
Simon Pegg,
Ving Rhames, voilà, toute cette équipe-là, en fait, qui continue à arriver, qui vont devoir donc sillonner le monde à la recherche de cette clé. Ce que j'ai bien pitché, j'ai l'impression que c'était hyper fumeux.
Ouais, c'est très long. Après, en vrai, je pense que mais bon, on va peut-être en parler de manière générale, parce que tu parlais du premier film, et je me souviens qu'à l'époque de la sortie du premier film, il y avait tout un débat assez étonnant, hein, moi je trouve, sur le fait que le film était incompréhensible, surtout pour le public américain.
C'est vrai.
Ouais. Et notamment les ramifications politiques, en fait, si tu veux, entre les différents personnages, dont ils parlent un tout petit peu d'ailleurs là-dedans. Hein, ils font mention du personnage de Vanessa Redgrave.
Ce retour là, moi.
Si, ouais, c'était un des trucs en fait qui était ressorti après la sortie aux États-Unis du premier.
D'accord.
Et d'où l'idée en fait dans Mission Impossible 2 et j'ai envie de dire 3. Et 4 et à peu près jusqu'à l'arrivée de Christopher McQuarrie en fait à proprement parler, d'où l'idée de faire des pitch rooms extrêmement simples en fait.
Oui, en gros c'était toujours la même chose. Je sais pas combien de fois il a lutté pour éviter qu'il y ait un fichier qui révèle la véritable identité des agents secrets. Il faudrait que je me replonge dans toute l'histoire des Missions Impossibles, mais en fait c'est pour dire la vérité, c'est en règle générale, à part encore une fois le 1, ce sont des films, et là je mets le Brad Bird aussi dans l'eau et tout, c'est des films dans lesquels le scénario importe, enfin pour moi importe pas beaucoup, quoi.
Voilà, là ici t'as quelques idées, mais après il y a aussi une problématique.
Il y a un McGuffin,
en fait,
voilà.
Voilà, il y a un McGuffin. Après, bon, recontextualisons aussi. On arrive en fait, enfin, moi je sais, je vais poser cette base parce que je pense que c'est un petit peu important. On n'a jamais vraiment parlé de surcapture de Mission Impossible, quoi.
Non, c'est dommage.
Ouais. Et en fait, le truc c'est que du coup c'est plutôt pas mal de faire ça avec ce film-là, parce que à la base en fait Mission Impossible et ça traduit, c'est quand même un film qui date de 96 maintenant. Hein, ça traduit un peu la volonté de Tom Cruise de cette époque-là, avec les films qui se sont succédés. L'idée c'était d'aller chercher des réalisateurs à chaque nouveau film. C'est-à-dire que t'as Brian De Palma sur le premier. T'as John Woo, en fait, sur le deuxième. Bon, t'as J.J. Abrams sur le troisième, mais c'est parce qu'on sait que Fincher et comment dire, Joe Carnahan, surtout, se sont barrés en claquant la porte, quoi.
Et puis, c'est un choix très discutable, et le film est lui-même très discutable, mais en même temps...
Moi, c'est le pire film de la saga.
Tu peux aussi admettre que... Oui, d'accord, moi, je parle du point de vue de... J'essaie de parler du point de vue de Tom Cruise, qui est difficile. Ouais. Mais c'est J.J. Abrams, quand il est arrivé, il a imposé, en quelque sorte, une espèce d'école, à la fois d'écriture... et peut-être un tout petit peu de réal et qu'il a voulu capitaliser là-dessus. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'il y a une logique.
C'est surtout un film qui a été à l'époque en fait où il a été fait, qui a été inversé avec la sortie de La Guerre des Mondes et du coup, il a fallu le faire très rapidement. Voilà, mais on n'est pas là pour parler de Mission Impossible 3. Non. Et ensuite, quand même retour aux vraies affaires avec Brad Bird sur le 4, quoi, qui est moi je trouve le meilleur après le premier, quoi.
Et qui était un vrai risque de la part de Tom Cruise. Moi j'en ai parlé avec Brad Bird en fait de ça et Brad Bird disait moi j'étais incroyablement étonné que ce gars, parce que c'est en fait Brad Bird a été dragué en fait par Tom Cruise dès le Géant de Fer. Donc et Brad Bird il dit Tom Cruise c'est un érudit incroyable, c'est un vrai cinéphile, on parle de cinéma et de façon très pointue avec lui et c'est hyper agréable. Et il dit lui par exemple il ne fait aucune distinction entre le cinéma d'animation et le live. C'est-à-dire que s'il repère un bon réalisateur, et là pour le coup c'était Brad Bird, le cas hein, sur Brad Bird c'était son premier film live quand même, s'il repère un bon réalisateur en cinéma d'animation, il se dit ce mec-là est capable de faire un film live qui soit très très correct. Préciser quand même que sur ce film-là, c'était encore beaucoup la mainmise de J.J. Abrams, c'est-à-dire que c'était coproduit par Bad Robot. Il y avait encore la team de scénaristes qui venait de cette écurie-là.
Ce qui fait que le scénar est vraiment pas terrible non plus. Après, le truc qu'il faut pointer du doigt, c'est que à cette époque-là, Tom Cruise, c'est un peu tous les états de Tom Cruise, hein, Mission Impossible. C'est ça qui est intéressant. C'est que en fait, Tom Cruise n'était pas vraiment en odeur de sainteté. D'ailleurs, il y a un petit détail dans le dernier dont on va parler rapidement à la fin, parce que moi, ça, je sais pas si t'as vu ça dans le générique. Mais en fait, le film est dédié à Sumner Redstone.
Oui, mais qui est-ce?
Alors, Sumner Redstone, c'était le patron de Viacom, un vieux monsieur, en fait, qui est décédé il y a quelques années, et qui, par le billet de Viacom, était le patron de Paramount. Et en gros, dans la grande époque, en fait, Tom Cruise saute sur les canapés d'Oprah Winfrey.
Et il l'avait blacklisté, en quelque sorte.
Il avait été blacklisté par Sumner Redstone, et notamment, surtout, par la femme à l'époque de Sumner Redstone, tu vois, qui, comment dire, avait dit non mais lui en fait le public féminin ne viendra plus le voir en fait. Du coup, il l'avait juste après le pseudo bid en fait de Mission Impossible 3. En fait, il a été blacklisté par la Paramount. C'est ce qui a permis à Tom Cruise
partir. Ça et La Guerre des Mondes aussi. Enfin, il y avait une déception sur les deux aussi.
Alors surtout pour la Paramount en fait, c'était donc Mission Impossible. Et le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que c'est ce qui a poussé d'ailleurs Tom Cruise à essayer de récupérer la United Artists, d'essayer de relancer un studio, parce que on oublie souvent qu'il a essayé de faire ça à la fin des années 2000, quoi. Et il s'est planté. C'est un de ses gros plantos, en fait. Donc, il était vraiment pas en odeur de sainteté à l'époque de Mission Impossible.
Il en a pas eu beaucoup dans sa carrière, mais c'est vrai que là, il y a eu une sale période.
Voilà. Protocole Fantôme, donc le quatrième. Et c'est pour ça que je pense que J.J. Abrams était vraiment en renfort. Enfin, toute son équipe était en renfort pour valider auprès de Paramount.
En fait.
La qualité du studio. Donc, moi, je trouve ça assez étonnant qu'il dédie le film que le film soit dédié à ce mec, mais
Je sais pas, ça, j'en sais rien. Mais après, le truc, c'est que, juste pour préciser quand même le truc, c'est que quand je précise que c'est produit par Bad Robot et tout, ça a son importance. C'est-à-dire que ce Bad Robot était vraiment la boîte de prod en fait à l'époque. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que oui, ils ont évidemment l'accord de distribution avec Paramount. Donc Paramount met énormément d'argent sur la table et c'est eux en fait qui ils ont leur mot à dire. C'est indéniable, tu vois. Mais par contre, Bad Robot, c'est eux la boîte de prod. C'est comme Lightstorm quand ils produisent les films de Cameron. C'est-à-dire qu'on oublie ça hein, parfois. On a l'impression que c'est juste les médias et c'est juste les trucs non, comme non, ça. J'ai lancé un postillon. Je ne sais pas si c'est vu à la caméra, mais c'était impressionnant.
Mais ça s'est pas entendu du tout dans le podcast.
Désolé. Mais ça arrive. Je ne suis qu'un humain. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde disait ça de Bad Robot en fait à l'époque, et Brad Bird le disait. Il disait j'ai eu l'impression d'être quasiment aussi protégé que quand je bossais à Pixar en fait. Il y avait quand même cette liberté.
Brad Bird disait ça.
Brad Bird, j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit?
Je crois que tu as dit autre chose. Je crois que tu parlais d'Abrams, mais vas-y. C'est peut-être moi. Hein.
Vas-y, Bradburn, mais c'est pas grave.
Bah, merci. Reprends. La voix du dieu, du divin nous a dit que j'avais raison. Merci, le divin.
C'est pas grave. Continuons. Avançons. Donc, il était protégé, certes. Alors, le truc, c'est que ça, c'est une réalité. Et mais c'est surtout qu'avec l'arrivée de Macquarie, qui est devenu un petit
alors
peu
ça,
son nouveau Robert Towne, c'est-à-dire son nouveau scénariste attitré, quelqu'un qui travaille sur absolument tous les projets.
Tous les films
en fait de Tom Cruise, ce qui est une rencontre qui s'est plus ou moins faite à peu près à l'époque de Jack Reacher. On a fait un podcast sur Jack Reacher avec Julien Charpentier.
C'est fait donc vraiment à l'époque de Bryan Singer, à l'époque de.
Tout à fait, c'est vrai, Valkyrie.
De Valkyrie, tout ça. Hein.
Et en gros.
Macquarie est un ancien collaborateur de
Bryan Singer. Et en fait, il faut savoir donc, que Tom Cruise fonctionne comme ça en fait sur ses propres projets. C'est-à-dire qu'il l'a il a toujours fait réécrire jusqu'à cette époque-là par le scénariste Robert Towne. À l'époque de comment on fait déjà à l'époque de Jour de tonnerre hein, jusqu'à à peu près effectivement la fin des années 2000 et
que là tu crois ça s'est même pas terminé
en tout cas
avant.
Je sais que pour en avoir parlé avec Joe Carnahan Roberta on était sur Mission Impossible 3
sur le 3 d'accord, ouais. Okay.
Et le truc en fait ce qui s'est passé
c'était un problème hein,
oui bien sûr bah, Robert Towne c'est un vieux monsieur
Robert Towne c'est un vrai souci
ouais. Voilà et c'est un scénariste des années 60-70 qui est très connu pour Chinatown par exemple de Polanski et qui en fait effectivement est quelqu'un de talentueux mais qui est quelqu'un qui je pense qu'on peut le dire assez ouvertement a vendu son âme en fait d'artiste en tout cas justement en travaillant avec Tom Cruise
ça, et c'est pas très buté très
oui, orgueilleux c'est une façon de voir les choses évidemment hein, mais quand on vient du nouvel Hollywood et qu'on fait Jour de tonnerre il y a quand même
mais c'est clair
voilà mais le truc c'est que on s'égare on part dans tous les sens mais en fait le truc c'est que Macquarie est devenu le réalisateur attitré de la franchise
c'est important cette mise en contexte je veux dire, là on parle vraiment d'une vraie saga en fait Mission Impossible
au long cours parce que ça fait bientôt 30 ans
c'est
hein.
Ça et tu peux pas faire abstraction de ça quand tu vois le dernier non plus c'est-à-dire que forcément c'est le cas sur tous les films
je pense
les qualités et même les défauts du dernier en fait sont aussi liés à
tout à fait moi je pense que l'un des premiers problèmes de Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 on dirait que les mecs ils font les captures en mag le podcast tu sais première partie deuxième partie troisième partie quoi ça dure aussi longtemps en plus mais l'un des problèmes majeurs à mon sens hein mais après ça va avec le projet c'est que c'est le troisième film de Macquarie sur quatre et que en gros ça commence à se voir en fait aussi je pense tu vois alors après moi personnellement je trouve ça meilleur que Fallout parce que Fallout c'est quand même les mecs ont oublié d'écrire un scénario quoi mais après il y a quand même en fait on reste dans les limites de ce que Macquarie est capable de faire quoi. À l'exception de quelques points dont on va parler parce qu'on va vraiment tout dire sur Mission Impossible donc vraiment allez le voir avant de
vous
faire spoiler
un des gros trucs. Peut-être après le truc c'est que tout dépend de ce que tu penses de Macquarie c'est-à-dire que puisqu'on en est à remettre aussi en contexte le truc, je trouve que quand il est arrivé avec Rogue Nation, moi je l'ai perçu comme ça, ça m'a fait du bien en fait. Et j'aime beaucoup, beaucoup Rogue Nation, c'est un de mes préférés avec le 4. Bon, le 1, encore une fois, je le mets à part, mais le 4 et le 5, c'est vraiment deux films en fait que j'aime vraiment.
Encore une fois, ça dépend sur quoi tu as. C'est-à-dire que, en fait, c'est sûr que.
C'est vrai que le 6 avait été une grosse déchet.
J'ai vu beaucoup de fois personnellement Protocole Fantôme. Alors, ça, c'est aussi un autre truc qu'il faut. C'est un détail, on s'en fout, c'est une connerie. Hein. Mais moi, ça me fait un peu marrer les sous-titres d'Émission Impossible parce que c'est vraiment. T'as l'impression qu'en fait, les mecs, ils prennent des titres des TV et ils les accolent en sous-titres, en fait, si tu veux. Protocole Fantôme, Fallout, Dead Reckoning, Rogue Nation, en fait, c'est des films avec Dolph Lundgren dans les années 90, en gros, quoi, tu vois, ou avec, Don the Dragon Wilson, quoi. Mais, tu vois, nonobstant, voilà, ce n'est évidemment pas de la qualité, ce n'est absolument pas indicatif de la qualité des films, quoi. Mais, le truc, c'est que, ce qui est super, moi, je trouve, dans Rogue Nation, c'est le scénario. C'est-à-dire que c'est vraiment un vrai scénario écrit avec des trajectoires de personnages. Il a rajouté un personnage qui est vraiment important, à mon sens, dans le film, et dans la saga, qui est Ilsa. Et on va en parler là. Ouais. Même si je trouve qu'il y a une petite déception autour de ça dans celui-là.
D'accord.
Le truc, c'est que ce personnage-là, qui est cette espèce d'alter ego d'Ethan Hunt, quoi, c'est une super idée. L'actrice est formidable.
Ouais, elle est géniale.
Et c'est clairement un élément qu'on doit totalement à Macquarie, quoi, et qui est vraiment développé, en fait. C'est-à-dire que c'est pas, moi j'aime beaucoup Simon Pegg, hein. je le trouve formidable, moi, dans notamment dans le 4. Mais le truc avec Simon Pegg, c'est que en gros, il est utilisé comme il est utilisé de manière générale, c'est-à-dire comme un sidekick.
C'est ça, c'est un sidekick et c'est assumé comme ça. Vingram, c'est la même chose et tout, quoi, évidemment.
Voilà.
Quoi.
Mais le truc, c'est que là, c'est un vrai nouveau personnage. Oui, c'est-à-dire vraiment intéressant.
Et qu'il a un peu laissé par la suite, c'est sûr. Mais déjà, c'était un gros problème déjà dans Fallout, hein, la façon dont il a été traité et tout. Là, bon, au moins, il essaye de lui redonner un peu de consistance. Le problème, c'est qu'il l'abandonne en cours de route. Et là, tu te dis, mais est-ce vraiment nécessaire, en fait? Qu'est-ce que ça apporte, finalement?
Surtout, voilà.
Ça sert pas à grand chose. Donc, comme on spoil, c'est vrai
j'ai juste, en fait, je voulais préciser parce qu'en fait, on part dans tous les sens et faut vraiment, en fait, recentrer. Moi, ma problématique, en tout cas, sur Macquarie, c'est que c'est bien vu d'avoir un vrai scénario, contrairement au 4, par exemple. Mais ce qu'on gagne en scénario, ce qu'on gagne sur le papier, on le perd, moi, je trouve, à l'image. C'est-à-dire que, en gros, c'était propre, Mission Impossible 5, hein, Rogue Nation, quoi, c'était bien fait. Mais t'as pas du tout la virtuosité de réalisateur de Brad Bird. Après, évidemment, hein, au jeu des chaises musicales de réalisateur, Macquarie largement au-dessus de J.J. Abrams, quoi, sans problème. Maintenant,
en fait, le truc, Steph, c'est que oui, c'est vrai. Après, la question aussi, c'est est-ce que c'est vraiment préjudiciable? C'est-à-dire que
pas sur Rogue Nation, tu peux te répondre
en l'occurrence, moi, je trouve que par exemple, puisque c'est vraiment l'enjeu, quoi, sur les scènes d'action, évidemment que t'as pas le truc du couloir, évidemment que t'as pas la séquence sur l'immeuble là à Abu Dhabi, là, c'est Abu Dhabi. Je sais plus, enfin, dans ces pays de merde là, dans un de ces pays de merde. Et donc, heureusement, évidemment que t'as pas ces trucs là et tout. Et en même
temps, c'est à Dubaï.
À Dubaï, ouais. Pardon. Je m'en fous, c'est la même merde. Et le truc, c'est que le truc en fait, c'est que j'aurais pas à dire des trucs comme ça. Je vais avoir des problèmes. non, mais bon. Bref, mais le truc, c'est que évidemment que t'as pas toutes les séquences de virtuosité de Brad Bird. Le truc, c'est que moi, je sais que la séquence, par exemple, puisqu'on en a encore à parler du 5, mais la séquence à l'opéra, la séquence de poursuite en moto et tout, putain, moi, c'est des séquences que j'ai vues et revues et dans lesquelles je prends un panard total.
D'accord, non, mais...
C'est vraiment excellent.
En fait, le truc, c'est que y a, de toute façon, il y a le savoir-faire Tom Cruise autour, déjà.
Bien sûr.
Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, à l'époque de Rogue Nation, et c'est un film qui tient encore très, très bien la route pour moi, c'était pas trop problématique parce qu'on se disait, bon, bah, peut-être le prochain, ils iront chercher, je sais pas, moi, tu vois, je croisais les doigts, McTiernan. Tu vois, mais
le truc, c'est ça. Je te parle du film même, je me projette pas.
La problématique, si tu veux, c'est que c'est là où je voulais vraiment en venir, en fait, c'est qu'on en arrive, en fait, à un stade aujourd'hui où, comme on est dans. Et Mission Impossible n'échappe pas vraiment à ça, on n'est plus, en fait, dans le Hollywood qui prend des risques. En gros, l'idée de Tom Cruise maintenant, c'est de donner, en fait, chaque film à Macquarie. Ils l'écrivent ensemble. Il les réalise à chaque fois. Et là, en l'occurrence, en fait, on arrive à ce Dead Reckoning Part 1 qui, comment dire, est censé avoir une suite. Mmh. Bon. Ce qui veut dire que, voilà, comme je disais tout à l'heure, on a 4 films de Macquarie, en fait, dans la franchise sur 8 films. Mmh. C'est un peu dommage, en fait, pour une franchise qui avait commencé et qui restait pendant 15 ans, d'accord, en fait, un territoire, en fait, d'expérimental pour des réalisateurs. D'accord. C'est-à-dire, après, on en pense qu'on veut. Hein. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans le John Woo. Il y a beaucoup de trucs problématiques aussi. Mais voilà, en fait, je veux dire, au moins, on était encore dans un espèce de système qui favorisait un tout petit peu le réalisateur. Ouais, une espèce de système, tu vois. Tu veux que je te reprenne sur tous les moments où t'as ripé?
Ouais,
bon,
vas-y,
merci.
Vas-y.
Donc, le truc, c'est qu'on était dans une espèce de système, en fait, si tu veux, où, comment dire, où il était possible, en fait, pour le réalisateur un tout petit peu de mettre sa patte, même si c'était pas évidemment... Le John Woo de Mission Impossible 2, ce n'est même pas celui de Face Off ou celui des... Bon, je parle même pas de The Killer ou de La Toute Épreuve, quoi. Mais le truc, c'est que là, la problématique de Macquarie, c'est que si c'était un réalisateur brillant, virtuose, incroyable, tu vois, je te dirais formidable, tu vois. J'ai 4 films de Macquarie pour le prix de... Tu vois, voilà. Sauf que non, c'est pas le cas. C'est quand même un réalisateur, à mon sens, extrêmement impersonnel. Et qui change un tout petit peu, qui a essayé de changer de style entre le Rogue Nation et Fallout... Moi, je trouve que c'est pas, c'est des tentatives où t'essayes de pas être toi-même, quelque part. C'est un des trucs un peu étrange, quoi, tu vois. Et là, on revient à peu près du filmage un peu plus proche de Rogue Nation, en fait, sur Dead Reckoning. Mm. Et ça reste, à mon sens, un des problèmes de ce film, c'est que, en fait, en gros, pour moi, la formule, elle commence vraiment à se répéter. C'est-à-dire, elle arrivait à se renouveler avec l'idée d'avoir des nouveaux réalisateurs malgré des scénarios un peu interchangeables. Là, en fait, elle commence un petit peu à se répéter. Maintenant, pour autant, et ça il faut le dire.
Pas ça grave en fait quoi. Je veux dire oui, ce fut ça Mission Impossible. Il veut plus faire ça, Tom Cruise. Après c'est
est-ce qu'il
encore
peut
une
faire,
fois.
Est-ce qu'il peut faire ça, c'est la vraie question. Hein, maintenant c'est surtout ça. C'est-à-dire que est-ce que dans ce système-là il peut le faire quoi. Et le truc c'est que en tout cas, ce que je veux dire moi par rapport à ça, c'est que je commence doucement en fait en sortant de Dead Reckoning quoi. Je commence doucement à me dire bon. Ça commence un peu à stagner la franchise, quoi. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que ceci étant dit, parce que voilà, le monde n'est pas simple, tu vois. Ok, ceci étant dit, tu peux prendre ton micro, hein, tu vas parler, hein, t'inquiète, hein, tu vois, commence pas, tu vois. Mais le truc, c'est que ceci étant dit, il a pas fait l'économie d'un scénario contrairement au précédent. C'est-à-dire que vraiment là, ils ont commencé à réécrire le film, quoi. Ce qui est important. Donc voilà. Parlons-en. Enfin, on a pas à recontextualiser tout là. En fait.
Oui, bien sûr. Et le truc, c'est que que cette promesse qu'on a eue sur les 5 premiers, en fait, du coup, d'avoir un nouveau réalisateur qui a investi le truc et tout. Effectivement, elle est plus présente. Pour X ou Y raison, j'en sais rien. Après, ça appartient à Tom Cruise. Moi, je prends ce que Tom Cruise il me donne. J'indexe pas mon opinion sur le film sur ce que je rêve que le film soit. C'est-à-dire que je juge le truc. Voilà, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose.
C'est pas un rêve. Hein. Ça reste encore une fois ce qu'il faisait. Il y a encore jusqu'en 2015, quoi.
2015, ouais. Donc il y a 7 ans.
Ouais, il y a deux films 2008, depuis.
Hein. Donc c'est voilà. Après, le truc, c'est que oui, effectivement, le truc, c'est que. Sur Dead Reckoning, c'est qu'il y a des petits soucis, je trouve, dans le film, effectivement. Mais pour moi, le plaisir, il est là, total. Et surtout, il y a un truc, en fait, qui m'a frappé, en fait, quand j'ai vu le film, c'est que ça fait 2 étés de suite où on a un gros Tom Cruise qui sort. Et je me suis dit, ce mec-là, on connaît son abnégation pour la scientologie et tout. Et je pense qu'il a le même truc avec le cinéma. Et tu peux pas lui enlever ça. Il y a un truc là-dedans où je me suis dit, ce mec, c'est le vrai truc que je ressors du film dans sa globalité. C'est que il a envie de bien faire, quoi. Ça se sent, quoi. Ça se sent partout. Ouais. Et je trouve même, c'est marrant, mais tu vois, il y a un autre truc, c'est que, il y a tout ce récit médiatique autour de Tom Cruise. Il fait toutes les cascades lui-même, etc. qui est irritant, donc contre lequel moi je m'inscris en faux, notamment bon, je vais pas revenir sur toutes les problématiques autour de ce qui s'est passé aux Oscars avec Top Gun et tout, mais il y a eu plein de problèmes et tout là-dessus. Mais l'avantage en fait de ça, c'est que il y a un enjeu qui est placé sur ces scènes d'action en fait, sur ces gros moments du film, qui fait que c'est des vrais événements en fait. Il y a un truc en fait dans ces scènes d'action où tu te dis cette poursuite en voiture à Rome, ce final dans le train et notamment cette séquence avec les différents wagons qui tombent.
Ah ça c'est ouais.
Il y a un truc où tu te dis le mec il veut marquer les esprits avec ça. Il veut se dire les gens ils vont sortir, ils vont être rassasiés, ils auront vu un vrai gros truc qui dépasse en fait la méthodologie de fabrication qui est un peu mensongère vis-à-vis de.
Ouais, en fait c'est
hyper agréable en fait.
Le truc avec Tom Cruise c'est que c'est une vraie star. Et en fait le truc aujourd'hui c'est que ça n'existe plus vraiment. Et qu'est-ce que j'entends moi par vraie star? On est en fait à l'ère des réseaux sociaux où les mecs en fait tu veux tu The Rock tu veux le voir tu le vois toutes les semaines en fait sur son Instagram avec ses gamines avec ses machins avec ses trucs.
Tu vois pas aux chiottes et tout.
Exactement. Donc le truc avec Tom Cruise c'est que Tom Cruise il ne se met pas en scène comme ça. Non, Tom Cruise il reste discret.
Il donne
reste,
pas d'interview alors voilà, elles sont hyper cadrées.
Voilà il reste discret comment dire sur sa vie privée. Je pense qu'il l'a appris à ses dépens qu'il fallait le faire quoi. Le truc c'est que il y a comment dire quand il apparaît et qu'il se met en scène. Donc tu l'as dit, en fait, ces interviews, elles sont cadrées. Je pense que t'as aucun journaliste qui s'est pointé pour lui dire « Tom Cruise, tu fais pas toutes tes cascades toi-même, c'est pas vrai, tu vois, arrête de pipoter. » Tu vois, parce qu'en fait, il serait complètement striké par les RP avant que ça arrive, quoi. Je remets un tout petit peu en question, hein, Julien, si tu me permets, l'abnégation de Tom Cruise vis-à-vis du cinéma, parce qu'il le fait aussi en se mettant en scène. Il l'avait fait à l'époque du Covid pour Tenet, où il était allé se filmer, en fait, en allant voir Tenet en salle, etc., etc.
Moi, j'ai une vraie sincérité, en fait, là-dedans.
Non, mais qu'il aime le cinéma, que ce soit son fond de commerce, et qu'il ait envie de le défendre, ça, oui, y a pas de problème.
C'est plus que le fond de commerce. C'est-à-dire que là, si on doit revenir aussi sur les coulisses de Dead Reckoning, quand il y a eu l'engueulade, là, qui était autour du machin et tout, moi, je comprends l'engueulade. Je prends position pour, pour Cruz. C'est-à-dire que c'est un risque énorme. On sait ce que ça provoque, en fait. Ce que ça a provoqué, en fait, c'est dans The Batman, la production a été arrêtée, ou Jurassic World, des trucs comme ça et tout, quoi. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, lui, il s'investit pleinement, en fait, dans le truc et tout. Donc, moi, je comprends, en fait, ça. Je comprends qu'il demande, en fait, cette abnégation et cette implication de tout le monde.
Après,
et
bon, lui, il a le salaire qui va avec et peut-être pas les rouillots sur lesquels il gueule, quoi.
Je pense qu'ils sont très, très bien payés, en fait, les films de Tom Cruise, Steph. Et je pense, en fait, que l'aura et ce qu'il arrive à maintenir autour de lui, tu l'obtiens pas sans contrepartie avec ton équipe aussi, quoi. Je veux dire qu'il obtient ce respect-là aussi.
En tout cas, en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que tous ces trucs-là, en fait, c'est des choses que lui, en fait, accepte de mettre en scène. Accepte de clairement faire comprendre, tu vois, il y a cette vidéo qui a fuité, de Spielberg qui lui tape dans les bras, en fait, si tu veux, pour lui dire, t'as sauvé le cinéma avec Top Gun. Bon, je veux dire, à tout prendre, je veux bien la même avec James Cameron sur Avatar.
Mais
parce que,
c'est
en fait,
pas
pour
parce
le coup,
que James Cameron n'a pas obtenu gain de cause avec Avatar comme il aurait dû l'avoir, que tu peux pas reconnaître non plus ça. C'est
non,
vrai,
bien sûr. Après, moi, en fait, et là, c'est mon goût personnel, tu vois. J'en ai pris suffisamment plein la gueule à l'époque l'an dernier là quand on a fait le podcast dessus. Je fais partie des quasiment, je crois, des seules personnes sur Terre à pas comprendre pourquoi Top Gun Maverick est apprécié à ce point-là.
Oui,
tu vois,
mais Steph, en fait, il y a un truc qui est commun entre Top Gun Maverick et qui est commun avec ce Mission Impossible, c'est que moi, quand je vois ces films-là, je comprends pourquoi je suis au cinéma. Je comprends pourquoi je vais les voir au cinéma. Et je pense que ça irrigue. Encore une fois, c'est au-delà des méthodologies de travail. C'est au-delà de on fait tout pour de vrai, ce qui est des conneries. On le sait très bien. Et ça se voit en plus d'ailleurs.
Voilà, dans celui-là, ça se voit clairement.
Dans Dead Reckoning et tout. Donc, c'est au-delà de tout ça, en fait. C'est qu'il y a encore une fois cette volonté qui s'est perdue chez Marvel, qui s'est perdue dans la plupart, enfin, dans beaucoup, beaucoup de grosses prods qu'on a faites, mais que tu as dans Babylone, que tu as dans plein de films aussi qu'on a chroniqué depuis le début de l'année, de se dire on fait un film de cinéma, on célèbre le grand écran. Et Top Gun Maverick avait ça, c'est-à-dire que les séquences de baston d'avion, parce que tu comprenais les enjeux, parce que t'avais vraiment l'impression de partager ces trucs eux, parce que t'avais tous ces trucs là parce que t'avais une vraie sensation de danger parfois, parce que t'avais cette sensation de vitesse, tu te disais je suis content de le voir au cinéma. Moi, je sors de Mission Impossible, je me dis j'ai envie de le voir en famille, ce truc là parce que je sais que tu vas être content de le voir au cinéma. Et il y a ça, en fait, Tom Cruise. Et ce que je veux dire, tu vois, là-dessus, depuis le début, peut-être de façon un peu maladroite, c'est que c'est une démarche globale. C'est-à-dire que, encore une fois, ce récit médiatique de « on tourne pour de vrai, on fait de la pellicule », qui revient aussi avec Nolan, et qui donc correspond à ce que fait Spielberg, c'est un truc où ces mecs-là ont la foi encore. Et ça se sent, ça transparaît dans le film complètement.
Ce n'est pas discutable. Je pense que lui, en tout cas, instrumentalise un tout petit peu cette foi-là, en fait, pour se poser en espèce de sauveur, et que je pense que c'est un peu lié à son
truc. En fait, il a contribué à pour les exploitants. Tu parles à n'importe quel exploitant, ils sont contents qu'il y ait un film comme
Et après, il y a un espèce de truc où je pense que personne.
Ouais, mais ça, c'est pragmatique.
Pour
c'est
le coup, je pense que personne ne pouvait vraiment calculer, y compris en sortant pour la première fois de Top Gun Maverick, que ça allait être un carton à ce point-là, quoi. C'est-à-dire, moi, je pense, enfin, honnêtement, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, bah, ok, tu vois, je veux dire, d'accord, mais je pensais pas que ça allait être un carton aussi atomique, quoi. Enfin, c'est surprenant, c'est quand même un film.
Moi, je pensais pas que Avatar allait être un carton atomique aussi pareil. Je pensais pas qu'il dépasserait le premier.
Le premier
pareil.
Film avait le bah, il a pas dépassé le premier.
Non, mais enfin, quasiment, quoi. Proportionnellement, ça retire le marché russe et tout. Enfin, bref.
Bon, bref. Le truc, en tout cas, c'est que tout ça pour dire que, peut-être à s'attaquer au gros morceau, quand même.
Oui, hein,
de rien,
on a
quand même plus que contextualisé, là. On en arrive à ce Dead Reckoning, quoi, qui, je pense, dans l'esprit de Macquarie, parce qu'il l'a lui-même dit à l'époque, faut qu'on ait un scénar, faut qu'on l'écrive. Donc d'un seul coup, ça devient un film en deux parties, ce qui est un peu une nouvelle mode aussi actuellement là, à Hollywood, puisqu'il y a eu le Fast X qui est un film en deux parties. Il y a, il y a, en tout cas, ça se veut en fait comme ça, puisqu'il y a un cliffhanger. Il y a le Spider-Verse en fait qui est en deux parties. Je suis sûr qu'il y a un ou deux autres films en fait qui sont en deux parties qui vont arriver. Je crois qu'il y a le Zack Snyder, mais ça c'est différent, c'est sur Netflix. Et ce Mission Impossible, dont la suite est plus ou moins tournée, si ce n'est qu'ils sont encore dessus, quoi.
Elle n'est pas tournée puisque le tournage a été reporté puisque il y a la grève des scénaristes et du coup ils peuvent pas finir d'écrire le film, donc il est pas fini d'être écrit.
Apparemment la date de sortie c'est 2024.
Non,
en tout cas.
Puisque la grève des scénaristes justement a frappé aussi Mission Impossible, donc c'était toute l'ironie du truc où tu te dis mais vous aviez annoncé effectivement que vous aviez quasiment tourné les deux films en même temps et en fait là vous êtes bloqué parce que le scénario en fait n'est pas terminé, donc si le scénario n'est pas terminé le tournage a fortiori n'est pas terminé. Donc ça c'est un problème et on verra ce qu'ils feront pour le 2. Donc effectivement, il y a ce truc de la suite. Encore une fois, on a beaucoup contextualisé et tout. C'est vrai, et t'as raison, il faut qu'on revienne sur le film en lui-même.
Ah oui.
Moi, je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir sur le film. Je sais que le film, il dure quoi, 2h45, un truc comme
ouais,
ça. J'ai quasiment pas vu le temps passer. J'ai vu un peu un ventre mou avant la dernière set piece, comme ils disent aux États-Unis, où il y a un dernier truc un peu lourd pour avancer les personnages, et notamment avec le personnage de Elliot Wells et tout. C'est un peu pesant et tout, mais sinon, j'ai vraiment passé un très bon moment. Et surtout, j'ai été rassasié au niveau du cinéma, c'est-à-dire que j'ai été rassasié au niveau du dépaysement que procure le film, j'ai été rassasié au niveau de ces 7 pistes. Je pense qu'on terminera peut-être là-dessus parce que on peut peut-être enchaîner directement là-dessus, mais
on parle de ce qu'on veut, Julien.
Mais ouais, non, mais en fait, il y a plusieurs trucs, c'est que il y a des scènes d'action qui sont secondaires et qui sont un peu moins bien, mais où il essaye de les teinter. Donc t'as puisqu'on parle de trucs qui fâchent un tout petit peu, enfin moi qui me fâche un tout petit peu en tout cas, je sais pas quelle est ton opinion parce qu'on en a pas parlé hors antenne, mais moi par exemple la scène à Venise, je respecte la volonté de vouloir faire un pas de côté stylistiquement, c'est-à-dire que il y a manifestement une envie de revenir à un truc qui est un peu plus gothique, on va dire, ou peut-être un peu plus de cape et épée, un truc comme ça, quoi, à la fois dans les armes, dans le décorum, dans la façon de le filmer et tout. Il y a aussi cette idée de faire un combat, en fait, entre deux murs sur une ruelle ouais, qui est extrêmement étriquée, où tu sens là les limites, effectivement, de capacité de filmage de Macquarie. C'est pas extrêmement préjudiciable, mais c'est vrai qu'elle est.
En fait, avant.
Le problème, c'est que la scène n'est pas. Elle est vraiment pas exceptionnel, surtout elle est pas à la hauteur de ce qui se tourne, et là pour le coup t'as un enjeu dramaturgique qui moi m'a fait chier parce que donc c'est la mort de Ilsa, donc on spoil hein, tout, voilà. Alors là, vous avez regretté, continuez de nous écouter alors qu'on vous a prévenu avant, et je me suis dit merde. Déjà, j'ai pas envie qu'elle disparaisse, parce que j'aime beaucoup le personnage.
Même si c'est très relatif, hein, dans un truc comme ça, elle peut revenir, en fait.
Ouais,
que,
mais bon.
Pour moi, ouais, ce qui est problématique là-dedans, bah, en fait.
Et ça fait chier, en fait, parce que c'est pas à la hauteur, en fait.
Il y a deux trucs, en fait. Il y a ce qu'on appelle au cinéma le foreshadowing, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comment tu vas annoncer un événement dans une scène précédente avant, en fait, qu'il arrive vraiment. Le film s'ouvre. Sur la fausse mort d'Ilsa, dans le désert, dans une scène d'action, ma foi, en fait, aussi problématique à mon sens, parce
qui est pas formidable.
Mais pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il se facilite pas les choses, en fait. C'est-à-dire que Macquarie, dans cette scène, c'est dans le désert, c'est dans une tempête de sable. Et en gros, si tu veux, t'as plusieurs groupes de mercenaires qui sont aux trousses d'Ilsa, plus le personnage d'Ethan Hunt qui veut la retrouver et la sauver. Et en l'occurrence, le truc qui se passe, c'est que donc t'as une fusillade sur lesquelles, comme c'est que des personnages enturbanés avec des lunettes sur la tronche,
tu comprends pas qui est qui.
Ouais. Voilà. Ce qui fait que normalement, un réalisateur expérimenté à ce moment-là, même si ça aurait pu paraître être une idée un peu ridicule, tu vois, il aurait clairement tagué les personnages importants en couleur, si tu veux, avec des couleurs spécifiques pour que, en fait, le spectateur.
Couleur, un accessoire, n'importe quoi,
exactement,
un truc qui l'identifie, évidemment.
Et il aurait insisté sur ces points-là.
Et c'est très étonnant qu'il ne l'ait pas fait, d'ailleurs. Je me suis dit, mais c'est tellement basique, en fait, comme idée.
Pour moi, c'est un vrai truc de réalisateur-réalisateur. Je pense que la problématique de Macquarie, c'est encore une fois, hein, sans lui enlever plein de mérites qu'il y a, hein, et on va en parler. C'est-à-dire que, en fait, le Macquarie, c'est un scénariste avant tout. C'est quelqu'un qui, comment dire, en fait, a commencé le métier comme ça, pense ses films comme ça, c'est à la fois les qualités de ses films et à la fois quand il est réalisateur les défauts. Et un script par exemple comme celui de comme Valkyrie par exemple, c'est un excellent script, c'est réalisé par Bryan Singer, c'est n'importe quoi le film, quoi. Mais sur le papier, quand tu regardais le film, tu disais putain, si De Palma faisait le film, ça serait incroyable, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Et enfin, le De Palma en pleine possession de ses moyens. Donc là, la problématique en fait de cette scène, c'est qu'il y a ce premier problème-là. Il y a le foreshadowing sur la mort de
Rebecca Ferguson.
Voilà, sauf que En fait, dès la première scène, tu te rends compte qu'en fait, elle est vivante, qu'elle feinte en fait sa mort, et tu te dis, bah, ça peut tout autant être un foreshadowing sur la suite, en fait, où elle feinte sa mort, en fait, dans celui-là. Donc, pour moi, et je vais te dire pourquoi je
pense. Même pas pensé à ça.
Bah, je vais te dire pourquoi je pense à ça. C'est parce qu'en fait, je trouve que sa mort est non événementielle.
Bah ouais, ça fait chier, quoi.
Bah oui, mais, et je pense, alors, comme tu
le
sais,
mais du coup, ça marche pas.
Il faut qu'on juge le film à ce qu'il est, pas à l'orée de la suite qui arrive, mais, la problématique, c'est que je la trouve tellement. Finalement, il y a un moment dans le film, moi, que je trouve que j'aime beaucoup. C'est ce moment où ils se retrouvent et en fait, ils se prennent la main en fait en allant quand ils sont à Venise, en allant justement à la soirée, quoi. Et ce petit moment-là, je me suis dit, ah, mais oui, c'est ça, ces personnages-là, en fait.
Ouais.
Ces personnages-là, ils s'aiment, mais en même temps, ils sont pas forcément romantiquement, comment dire.
Mais liés, j'adore quoi. Ce couple. Il est super. Et il y a même un autre truc d'ailleurs qui est lié à ça. C'est que, mine de rien, moi, je sais que quand je les ai vus tous réunis, et notamment avec ce plan qui était déjà dans la bande-annonce, là, où ils sont sur le bateau à Venise, j'ai eu un flash où je me suis dit, putain, je suis content de les voir réunis. Et ça m'a fait hyper bizarre de penser ça, parce que toi, tu parlais des défauts dont parlaient les gens, là, sur le premier. Moi, je me souviens que la vraie critique du premier, c'était de dire, mais Mission Impossible, c'est un film de groupe, et là, vous niez le groupe.
Oui, oui, bien sûr. Ouais.
Au profit, évidemment, de Tom Cruise. Et là, je me suis dit, mine de rien, McQuarrie, parce que je pense que c'est McQuarrie, un peu Abrams, parce que c'est Abrams quand même qui a vraiment initié ça, pour le coup. Mais surtout McQuarrie après qui l'a renforcé notamment avec Ilsa, mais pas seulement avec le retour de Vingrams par exemple et tout. Et je pense que McQuarrie a réussi ça en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment je me suis dit, mais ça y est, je suis content, c'est un groupe et Mission Impossible part de loin en fait à ce niveau-là.
Oui, bien sûr.
Et je pense que Ilsa c'est dans le groupe, c'est celle qui ressort le plus finalement. C'est sûr et certain.
Moi tant qu'on me fait pas revenir Paula Patton, ça va pas. Bref, mais
ouais,
mais...
bah moi je trouve que justement elle était hyper
non,
fadasse.
Non, évidemment,
quoi.
Mais
elle est très belle, hein, évidemment, oui, mais elle était hyper. Ils sont.
Oh, moi j'aimais bien dans le film en tout cas, mais fadasse, en tout cas le truc, en tout cas ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que cette petite scène en fait, qui est une petite scène
intimiste, ouais, ça marche,
fonctionne beaucoup plus que finalement la mort en fait de du personnage. Et je pense en fait que effectivement, je suis d'accord avec toi. La problématique de la scène, ce qui sauve la scène, on va dire, dans la ruelle avec Pomme Clémentieff, c'est qu'en fait, il est un peu brutal, Tom Cruise, et que du coup, il lui pète la tête contre les murs et tout ça. Donc,
c'est
ça,
l'autre
c'est un peu
avantage
rigolo,
mais... du film, c'est qu'il réussit quand même à te poser de nouveaux personnages qui fonctionnent. Et moi, Pomme Clémentieff, en fait, c'est une actrice que j'aime pas trop, en fait. Même quand on retournait en France, là, dans
Gardien de la Galaxie 2 et 3.
Ouais, mais elle, je l'ai découverte dans la comédie, là. C'était quoi les... Je suis sûr qu'Alain, tu peux trouver ça sur Internet. J'ai oublié, mais c'était une comédie un peu vénère française et tout dans laquelle elle jouait. Et j'ai jamais aimé en fait moi cette comédienne. Et en fait au début quand je la voyais surtout dans les affiches, tout, j'aime pas cette actrice. Elle a un truc qui me, elle est très jolie hein, par ailleurs. C'est vraiment un truc de comportement et tout. Et en fait j'aime beaucoup son utilisation là-dedans parce que elle marche. Je trouve qu'elle fonctionne hyper bien en fait. Et j'aime beaucoup en fait le retournement et tout, où j'étais et à mon grand étonnement un tout petit peu ému parce que non, spoil à fond, mais sur la scène de mort en fait. J'étais un tout petit peu ému, alors pas énorme, j'ai pas lâché ma larme et tout, mais j'étais un tout petit peu ému, j'étais hyper étonné de ça, je me suis dit, ah, putain, elle est pas mal écrite en fait, elle fonctionne aussi, en femme de main, en l'occurrence du méchant quoi, enfin
de Saïd Morales. Le truc c'est que ce qui je pense aussi fonctionne là-dedans à mon sens, hein. Il y a beaucoup de petites détails que ça qui fonctionne, c'est que en fait le personnage de Tom Cruise, Ethan Hunt, en fait a un code moral.
Oui.
Et qui est en fait, qui n'était pas forcément aussi flagrant que ça en fait jusque-là.
Absolument
et
pas,
en fait, en gros, qui a un code moral en fait où il a une espèce de, par exemple.
Bah moi, je trouve que c'est le premier film où je le sens vraiment.
Ouais. Et
tu te dis, en fait, c'est ça le truc avec ce personnage-là, c'est que il la rattrape parce que en fait, lui-même, il est bon en fait.
Enfin, il ne veut pas tuer quoi.
Tout à coup, en fait, il y a aussi ce truc dans ce film, c'est que tu te dis, ils ont réfléchi à pourquoi c'est un héros, Ethan Hunt, au-delà du fait de, il est malin. Il a pas peur.
Et il fait toutes ses cascades.
Et c'est Tom Cruise.
Ouais.
Ça m'a. Je pense que c'est ça effectivement aussi qui m'a beaucoup touché dans le film. Le film du coup là.
Les Caïras.
Les Caïras, voilà, ouais. C'est ça.
Il a un code moral. Il a un code moral en fait.
Merde.
Ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas terrible.
J'aime pas du tout.
Mais il a un code moral en fait qui lui permet de dans les scènes d'action, si tu veux. En fait, malgré tout, prendre en considération, y compris les gens avec lesquels il se bat et les gens qui cherchent à avoir sa peau, quoi. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et du coup, en fait, ça vend effectivement ces personnages-là aussi, quoi. Après, moi, je dirais que, comment dire, j'aime bien la scène de filature dans l'aéroport au début.
Elle est super.
Elle, je trouve, surtout hyper bien montée.
Ouais, en fait, et bah, tu vois, tu parlais justement, c'est ça qui me faisait un tout petit peu tiquer tout à l'heure, c'est que tu parlais des limites de Macquarie. Moi, il m'a beaucoup surpris sur cette séquence. Je trouve que la, en fait, c'est une séquence qui est hyper compliquée, donc Tom Cruise doit faire une filature par le personnage de Elliot Wade, dont le nom m'échappe, mais, et qui donc, est une super voleuse, etc. Mais lui-même est filé par des agents de la CIA, en fait. Et il y a encore un autre personnage qui intervient. Donc ça, c'est la filature Tom Cruise. Donc vous avez déjà, c'est très compliqué dans un aéroport où, et la problématique des aéroports, c'est que tout se ressemble à chaque fois. Les ailes, c'est des répétitions. Et il y a un autre récit parallèle où t'as le Vingrams. Et le personnage de Vingrams et le personnage de Simon Pegg qui se rendent compte que l'entité est en train de s'emparer de leurs outils informatiques alors que c'est des hackers de génie et ils se rendent compte d'une autre menace qui est que il y a une valise dans laquelle il y a une bombe qu'il va falloir désamorcer et c'est Simon Pegg qui va s'en occuper mais il le cache pendant très longtemps au personnage de Tom Cruise. Donc c'est un bordel en fait quand tu es en train de l'expliquer comme ça.
Et en fait elle est hyper fluide.
Et c'est hyper fluide, ouais. C'est hyper limpide, tu comprends tous les enjeux.
Après je pense que sur le papier elle est très bien écrite.
Ouais, tu vois, ça c'est probablement.
Voilà.
Mais c'est super et en plus
et parce qu'ils connectent tout, c'est-à-dire qu'en fait l'alerte à la bombe en vérité c'est comment dire l'entité qui a créé un leurre en fait. Et ça, c'est totalement dans la logique de Mission Impossible.
Totalement.
C'est-à-dire que, en gros, t'as pas le masque, mais en gros, c'est l'entité qui met un masque et qui l'enlève, en fait.
Qui met un masque, c'est la même logique, quoi. C'est pareil, t'as un vrai plaisir de, parce que c'est un autre truc, moi, je trouve, dans les Missions Impossibles, quand ils sont réussis, c'est que t'alternes les moments où les personnages, ils sont juste malins, au moment où les personnages, ils sont malins à action. Et ça, c'est un truc où ils sont juste malins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc d'action. Il y a un peu de course de Tom Cruise, parce qu'il faut bien qu'il nous montre qu'il sait toujours bien courir.
À 60 ans.
Non, mais il est quand même hyper impressionnant. Faut pas déconner.
Non, c'est vrai. Ouais.
Mais bon, il y a quand même un truc.
Il fait quelques trucs, on va pas dire le contraire.
Non, mais c'est indéniable. Mais donc, il y a cette scène de course et tout. Mais sinon, il n'y a pas d'action. Il y a à peine les mecs qui finissent par sortir un peu des flingues ou des trucs comme ça. Mais sinon, il n'y a pas ça. Et ça marche hyper bien. Tu comprends la frustration. C'est réjouissant parce que elle-même, le personnage de Elliot Atwell étant une voleuse.
Grace.
Pardon?
Grace, ça s'appelle.
Grace, bien sûr, Grace. Elle fait plein d'entourloupes aussi qui sont réjouissantes et tout. Et t'as tout à coup ce personnage du grand méchant, enfin, qui est pas le grand méchant en fait, mais qui est l'espèce de messie de cette entité qui apparaît et de façon assez glaçante en plus je trouve, où tout à coup enfin ça marche hyper bien je trouve la façon dont qu'ils ont de le présenter et tout. Moi j'aime pas trop le truc du flashback pour l'instant, je vois pas trop ce que ça apporte dans le récit et tout, mais par contre cette présentation là
en fait,
elle est super,
surtout que la problématique du flashback, alors il y a plusieurs choses par rapport à l'entité, c'est-à-dire que en fait la problématique du flashback c'est que l'entité, c'est une intelligence artificielle. C'est un ennemi en fait invisible. Il est vaguement
il y a un pouvoir presque divin. Enfin,
voilà, il est vaguement représenté en fait par des espèces de une espèce de bulle en fait, si tu veux, algorithmique en fait, avec des trucs qui apparaissent, puisque quand
ils en font notamment très peu avec ça, heureusement d'ailleurs.
Oui,
heureusement.
Mais en fait, ça reste un truc. Voilà. Alors, mon problème avec
c'est un truc juste pour revenir encore un tout petit peu là-dessus, Steph, sur l'entité. C'est là aussi où tu vois que Macquarie est quand même vraiment habile, c'est que elle est désincarnée au possible en fait. C'est-à-dire qu'elle est effectivement, il y a des trucs de lumière, mais t'as l'impression que c'est presque un truc impressionniste. On te dit pas c'est elle. C'est-à-dire que t'as pas Master Control dans Tron avec un visage et dans tous ces trucs de hacker avec une entité méchante et tout. Non mais ça peut paraître bête.
Pour le Cobaye 2.
Hal. Dans tous ces trucs, en fait, souvent l'entité est incarnée. En fait, il y a une personnification de l'entité. Alors, quand je dis incarnée, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que ça peut être effectivement un visage sur un ordinateur ou un programme et tout. Et donc là, effectivement, il y a ce vague petit truc. Mais heureusement, il le met complètement à l'écart. Et finalement, c'est pas ce que tu retiens, je trouve, de l'entité. Ce que tu retiens de l'entité, c'est justement cette espèce de puissance qui est partout, mais que tu peux pas saisir parce qu'elle est d'office insaisissable.
Sauf que justement, je trouve qu'en fait, je trouve qu'il y a une petite problématique d'écriture avec ce personnage-là.
Ah ouais,
en fait, ouais, pour cette raison spécifique, c'est que je trouve qu'ils vont pas assez loin. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, moi, tu vois, dans toute la scène, en fait, à Venise, dont tu parlais d'action, t'as parlé effectivement de la rencontre sur le pont, t'as parlé en fait de la petite scène d'action dans la ruelle et tout. Mais moi, il y a un truc que je trouve super, c'est en fait parce que ça joue avec les conventions de Mission Impossible, c'est-à-dire que Mission Impossible, c'est Tom Cruise qui court et on lui parle dans l'oreillette et tu vas à gauche, tu vas à droite, etc., etc. Et d'un seul coup, l'IA en fait se met à personnifier Benji
ouais, c'est
et
super,
en fait prend le contrôle et dit à Tom Cruise, allez, bouge, va-t'en, etc., etc. Et le truc, si tu veux, c'est que là, il y a un acte. Enfin, pour moi, il y a un rendez-vous manqué à ce moment-là.
Ils ne tiennent pas jusqu'au bout, ça.
C'est qu'ils le font une fois, vraiment.
Ouais, ouais.
Tu vois,
ouais,
et tu dis, ah, c'est cool. Et d'un seul coup, en fait, Tom Cruise, il est littéralement pour la première fois face à face avec l'entité qui lui parle.
Ouais.
Et ça s'arrête là. En fait, l'entité lui dit juste, bah, en fait, je t'ai envoyé à l'autre bout de la ville, donc en fait, démerde-toi.
Alors...
Et en fait, normalement, moi, j'aurais aimé te dire, mais ok, c'est quoi tes motivations? Genre, tu sais, si t'as le contrôle, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Qui tu es, tu vois?
Moi, je suis content qu'elle ait pas de voix non plus. C'est-à-dire que, en fait.
Non, là, la voix de Benji, un peu façon TikTok.
Oui, c'est ça. Un peu façon... Non, mais moi, alors, je suis d'accord avec toi jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que là où j'ai eu un problème, c'est que je me suis dit. Là, pour moi, le rendez-vous manqué, il est ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un truc où tu te dis, d'accord, donc ils ont plus de matos, en fait. C'est fini et ils vont full. Comment dire.
Mais ça c'est le principe de Mission Impossible.
À la Predator, quoi, ils vont travailler dans le dur,
exactement.
Ils ont plus de matériel électronique.
Il y avait un truc en plus qui me semblait concorder avec le discours de Tom Cruise qui dit je fais toutes mes cascades moi-même les mecs. Mmh. Et je me dis mais il y a plus de matos. Benji, il est là mais il est obligé d'agir avec un marteau, un tournevis. Mmh. Il a plus d'ordinateur.
Sauf que ça c'est le principe du 4 déjà.
Sauf que pas jusqu'au bout. Et en fait, tu vois, dans toute la scène finale, eh ben, il a encore une oreillette et l'autre, il a encore accès à un GPS et machin et tout. Et je me suis dit, merde, non, en fait, c'est con, vous avez loupé un
mais
truc.
Mais c'est surtout, moi, en fait, ma problématique, c'est que du coup, je trouve qu'il y a un manque de motivation qui est lié à l'IA, si tu veux.
Ça me gêne pas du tout. Alors, ça t'a manqué, toi?
Ça m'a manqué parce qu'en fait, tu présentes un ennemi qui est un, en fait, quand tu.
Elle a pas de motivation, c'est ça qui est génial.
Alors, elle en a une. Moi, j'ai remarqué un truc, en fait, c'est que l'IA, sa volonté, c'est elle a peur de Ethan Hunt parce qu'elle sait que Ethan Hunt c'est le seul personnage qu'elle peut pas.
Oui, trois fois.
Et en fait, elle fait tout pour l'éloigner et
c'est
pour s'en débarrasser.
Ouais.
D'accord.
D'où l'intérêt d'avoir Gabriel dans sa poche parce que Gabriel c'est son némésis absolu.
La motivation humaine, c'est Gabriel.
C'est ça.
Mais l'IA en dehors de ça parce qu'elle se dit bon c'est le seul qui peut finalement me manipuler. En dehors de ça, elle a pas à avoir de motivation et c'est ça que j'aime. Et si ça se trouve Alain est une IA.
Non, alors tu sais, non, mais tu rigoles, mais alors en fait, on avait une conversation. Au moins, à un moment donné, après le film, je lui dis, en fait, l'IA, c'est le scénariste. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il y a ce moment en fait où il l'amène à la mort d'Ilsa pour motiver, en
ça
gros,
aussi,
si tu veux.
Je trouve que c'est pas
très bien pensé parce que. Ouais. Deux choses l'une, c'est-à-dire que tu disais bon c'est un film qui fait 2h46, je me suis pas fait chier, c'est relativement vrai, tu vois, c'est bien rythmé tout ça, etc. Pour autant, t'as envie de dire ok, mais en fait il a besoin de combien de motivation en fait pour buter Gabriel, en gros Tom Cruise, parce que fondamentalement il est à l'origine du crime initial, si tu veux, qui est un de ces trucs qu'on te rajoute. Alors ça fait 30 ans que ça existe, mais en fait on t'en a jamais parlé.
Ça j'aime
tu vois,
pas.
Voilà.
Aussi, ouais.
Alors il est pas très, il va très vite là-dessus. Hein. Mais pour moi c'est déjà une motivation suffisante normalement, tu vois. Sauf qu'en fait le mec, en fait il remet le couvert, il fait tuer Ilsa, ce qui fait que pour l'IA, en fait l'IA se dit, c'est une motivation supplémentaire pour toi, tu vois. Et t'as envie de dire ok, mais en fait tu veux quoi exactement? Tu veux l'éloigner ou tu veux qu'il bute ton bras droit? Enfin comment ça marche? Donc le truc, si tu veux, c'est que moi je lui disais. En fait, c'est le scénariste et moi c'est ma problématique avec l'IA, c'est-à-dire que moi l'IA pour moi, je pense que c'est telle qu'elle est utilisée au cinéma, etc., etc. Elle démontre en fait non pas pour le coup les limites de scénariste, mais les limites de l'intelligence en fait de celui qui fait le film, qui écrit le film, tu vois, suivant le potentiel. Pour moi, l'IA, pour l'instant, tout ça, c'est que de la, c'est plus trop de la prospective, mais en fait, le truc, si tu veux, c'est que pendant longtemps, c'est ce que ça a été. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que en gros, c'est soit tu le prends pour ce que c'est. Tu vois, et tu vas pas plus loin. Et moi, il y a plein de films en fait qui me posent problème là-dedans. Par exemple, Ex Machina ou ce genre de choses où tu te dis, mais en fait, ça va pas très loin. Tu vois, soit tu pars dans un trip philosophique.
Je suis pas d'accord sur Ex Machina.
Non, tu pars sur un trip philosophique à la heure. Tu vois, en fait, où d'un seul coup, on se dit, mais si l'IA est capable en fait d'apprendre par elle-même et qu'elle n'a pas en fait le poids physique, qu'elle n'a pas le truc qu'il a, comment dire, bah en fait, elle peut tout savoir. Elle peut être totalement omnisciente parce qu'elle a le savoir mondial, elle a le savoir universel, en fait, tu vois. Et c'est totalement philosophique. On t'explique pas comment ça fonctionne, c'est juste que ça fonctionne.
Ouais.
Tu vois, tu le sais parce que c'est
le
principe de l'IA.
D'ailleurs, l'IA, c'est très mal nommé, ça n'existe pas. Le livre du créateur de Siri, là, qui est un homme passionnant, là, qui a écrit ça, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est vrai que c'est un trope scénaristique qui, là-dessus, conduit à ça. Et là, en plus, qui s'encombre, je trouve, dans Dead Reckoning, d'un autre truc qui est sur, elle est capable de faire En gros, elle a un pouvoir divinatoire, c'est-à-dire qu'elle fait des telles prospections.
Bah, utilisez-le, putain, ce pouvoir-là.
Oui,
bah,
c'est parce vrai que pour moi, non, pour mais moi, c'est vrai que c'est une déception.
Pour
ça,
moi, c'est ça le problème, c'est que vous l'utilisez.
On parle des qualités, putain, on n'a pas assez parlé des qualités.
Non, mais attends, on va y revenir.
Non, mais c'est pas très grave. C'est vrai que ça fait chier.
Pour moi, alors là, je rentre dans le. Peut-être je rentre dans le délire de j'aurais préféré voir ça plutôt que de ce que j'ai eu, tu vois. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait si on m'avait proposé ce projet, tu vois, ce qui n'arriverait jamais. Mais bon, voilà.
Cruz, si tu nous entends.
Si tu nous entends, voilà, tu vois. Non, mais après, voilà, il y a cette problématique. C'est tu fais les deux derniers films, ouais, tu vois. On te dit, en gros, c'est pas compliqué. Si ce truc, il prend le pouvoir, si tu veux, c'est la fin du monde, en fait. Tu vois, comme toujours, hein, dans Mission Impossible, c'est la fin du monde. Mais là, c'est la fin du monde, tu vois. Et le truc, c'est que tu te dis, bah, terminé sur ça. Elle a pris le pouvoir. Et en fait, la suite, c'est comment on va faire pour reprendre le pouvoir de notre côté, tu vois. Nous, les humains. Nous, Tom Cruise.
Alors, là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord parce que, en fait, l'enjeu...
Et je pense que ça aurait fait un cliffhanger de malade, oui, tu vois. Oui. Et t'aurais pu un tout petit peu dévier, si tu veux, en pseudo-apo, post-apo, tu vois, si tu veux, en fait, tout relatif, hein, tu vois, de, comment dire...
Bien sûr.
Et traiter quand même tout un tas d'éléments, en fait, importants aujourd'hui dans
sur ton idée, et Tom Cruise, pour ça, essaye de réfléchir avant d'acheter l'idée de Stéphane Massagan.
Non, mais si vous êtes dans le scénario, je suis pas la WGA, moi, hein, je peux écrire
sur... Non, mais il y a un truc, en fait, moi, il y a un truc que j'adore, en fait, aussi dans cet antagoniste et dans les enjeux, c'est que la problématique de Ethan Hunt, et c'est aussi ce qui fait pour moi de lui un héros, c'est pas l'IA en soi. La problématique de Ethan Hunt, c'est que son gouvernement ne s'accapare pas l'IA. Autrement dit, sa problématique à lui, c'est que un pouvoir aussi phénoménal ne soit pas aux mains d'un seul pays. Et j'adore en fait cette idée-là. J'adore l'idée que finalement le personnage se batte, parce que c'est rare, surtout dans le cinéma d'action, se batte non pas pour un pays, non pas pour une idéologie, mais pour la pluralité en gros du monde et des idéologies et tout. Enfin, en tout
pour
cas,
le
moi,
bien commun.
Moi, c'est comme ça que
pour
je l'ai
le
lu.
Le bien commun. Ouais.
Faut pas se méfier du bien commun, Julien.
Je trouve que c'est une belle idée en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Absolument.
C'est parce que c'est ça en fait l'enjeu du truc quoi. Et j'aime beaucoup en fait cette idée-là. Il a toujours frôlé un peu avec ça, hein, Tom Cruise, surtout dans les Missions Impossibles et tout. Mais là, disons qu'il le pousse de façon hyper radicale sur en plus. Et c'est le truc qui est hyper malin, parce que moi, je reviens aussi au public et tout, sur un truc qui est aujourd'hui, qui existe depuis des années, hein, ce qu'on appelle les IA, mais tous les générateurs de voix, d'images, de tout ce que tu veux. Moi, je préfère le terme générateur que IA, mais bon. Et qui est très tangible, en fait, pour les gens. Donc, c'est là aussi où je me dis, mais ça a marché du feu de Dieu, parce que tout le monde est au courant de ChatGPT et tout le monde est émerveillé ou s'est fait duper par une journée et tout. Donc, que le film aussi utilise ça de cette façon-là aujourd'hui, je trouve hyper malin.
Il tombe pile poil.
C'est super malin.
C'est qu'en tout cas, bon, blague.
Enfin, un film qui a été lancé il y a 3 ans.
Ouais. Blague à part sur, oui, parce que ils ont commencé à tourner en 2020. Mais blague à part, en fait, c'est surtout, moi, le truc me venait par la mise en place, en fait, si tu veux. T'as quand même une longue scène au début de comment dire, de bureau, là.
Ouais.
Pas hyper passionnante, hein, faut le reconnaître, tu vois. Et en fait, la problématique de cette scène, c'est qu'en fait, il t'explique clairement ce que c'est. Si tu veux, cette entité, il l'appelle l'entité. Et en gros, si tu veux, en expliquant ce que c'est cette entité, du coup, il y a un peu cette notion de, bah voilà, c'est la fin, le destructeur du monde, quoi. Et en fait,
c'est un changement radical de nos sociétés.
Voilà. Et comme on sait qu'on est quand même à la limite de ça en ce moment, en fait, et qu'il y a beaucoup d'éléments qui se battent pour que ça n'arrive pas, en fait, si tu veux, et qu'en même temps, bon, ben, bah, on y va, quoi.
On a un changement de paradigme violent.
Total. Et en fait, le truc, c'est que du coup, je me disais, bon, bah, en fait, si le film le visualisait, ça aurait été d'autant plus fort.
Là, la
problématique, c'est qu'ils le font pas. Alain s'est penché vers moi, il me dit, en fait, l'IA, c'est Netflix. Tu vois, et Tom Cruise, il se bat contre Netflix. Et moi, je lui dis, ouais, bon, tu vois, je veux dire...
Je sais pas, je pense qu'il se bat, en fait, contre un... encore une fois, je pense qu'il... Mais c'est le truc des scientos, en fait. Alors, je vais pas aller jusque là et tout, mais je pense qu'il y a, dans les scientos, il y a ça, en fait, de ce que je connais des scientos. Il y a ce truc où tu te sublimes pour briser... Vous avez vu Battlefield Earth, on n'a pas encore fait de stéroïdes aussi, mais...
Bah, c'est
ça. Les titans.
Et voilà, et c'est ça en fait. Et donc je pense qu'il y a un truc de
pour libérer
qui est plus global que ça. Ouais. Évidemment, tu peux englober Netflix. Tu peux englober la mainmise des gouvernements,
TikTok.
Le machin. TikTok. J'en sais rien. Mais...
Moi, je veux juste préciser mon
dramaturgiquement, ça marche là-dessus. Trop bien.
Mais oui, je suis complètement d'accord. Mais effectivement, t'as Tom Cruise qui se présente comme un fervent défenseur de la salle. face justement à Netflix, qui était le grand débat il y a 3 ans avant pendant le Covid.
Ouais, ouais, bien sûr.
Est-ce que Netflix va remplacer la salle? Et là, t'as Tom Cruise qui se met en scène pour être ça. Et je dirais même, c'est Netflix et les algorithmes, parce que t'as cette entité, effectivement, qui a même une capacité de prédiction. Comme Netflix, c'était son argument de vente quand c'est arrivé en France, c'était Netflix peut prédire vos goûts, il suffit juste de lui dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas.
Ouais, mais bon, et publicité contre publicité.
Bien sûr. Mais je veux dire ça. En fait, pour moi, c'est une manière. J'y vois pas non plus une grande intention, etc. Mais c'est une façon amusée de me dire effectivement.
Tu peux lire le film comme ça, c'est voilà, indéniable.
C'est une façon c'est amusante de voir ça.
Les plateformes, par essence, se sont construites sur les IA. Là où
là de YouTube c'est pareil.
Et c'est clairement alors là où le cinéma se sert des IA mais pas une construction, c'est une extension, c'est un outil, c'est ce que tu veux, mais c'est pas la base, c'est pas la fondation, mais tout effectivement tu as tout à fait
après,
raison.
Je pense que ce serait la volonté, on va dire il pisserait pas très loin en fait, on va dire avec ce genre de thématique là, mais le truc si tu veux c'est que ce serait purement contextuel. Maintenant qu'est-ce que je voulais
donc
dire.
Donc on a parlé de la filature, faut qu'on parle de la putain de poursuite à Rome ou quoi. J'ai pris un panard là-dessus et sur le train à la fin, c'est exaltant, c'est super
réjouissant, ouais, tout à fait.
Quand tu fais comme ça, elle est géniale quand même cette. Alors déjà, moi j'aime beaucoup tout ce qui se passe en fait à Rome. En fait, j'aime beaucoup aussi toute la scène avant, la scène avec avec les forces de l'ordre italiennes, tout le truc avec toute la mise en place en fait de la scène d'action, je la trouve super. Et la scène d'action, elle est quand même réjouissante. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi ce que j'adore en fait dans cette scène, c'est moi j'adore en fait quand, surtout dans les scènes de poursuite en caisse, quand visuellement ça correspond à l'attitude des personnages. En l'occurrence, il y a plein de trucs en fait, c'est que ils te relancent l'action parce qu'ils changent de voiture et de véhicule plusieurs fois, et au final ils arrivent donc avec cette espèce de mini, c'est pas une mini,
c'est une Fiat 500,
c'est ça.
Oui, Jonah, pimpé quoi.
À la Lupin 3, en plus, tu peux pas t'empêcher de penser
moi,
à Lupin.
C'est un truc que j'aimerais qu'on parle, c'est les références.
Mais moi, je pense qu'il y a... Effectivement, je me suis dit, quand j'ai vu cette scène-là, et je pense que beaucoup de gens se le disent, c'est pas possible qu'ils connaissent pas le château de Cagliostro. Tom Cruise et Macquarie, c'est pas possible. Quand tu connais la cinéphilie de Tom Cruise...
C'est surtout qu'en plus, ils se permettent des gags de dessins animés, de films d'animation. C'est-à-dire que t'as ce moment... Alors, moi, je trouve que... Le seul truc, c'est parce que tu vois, on l'a vu dans une salle où ça rigolait pas à ce moment-là, tu vois, alors que la scène est vraiment drôle,
ça
en fait, si tu veux,
c'est ouf,
que,
hein.
c'est que, en fait, t'as ce moment où la bagnole, elle fait un tour comme ça, et en fait, alors, il y a plusieurs trucs, en fait. Déjà, il y a une idée qui est super, c'est qu'ils sont attachés l'un à l'autre, et qu'en fait,
aucune idée relativement classique de cinéma d'action. Hein.
Peut-être, mais en fait, si tu veux, c'est des idées de où t'es obligé, en fait, de prendre en compte une certaine façon de faire, tu vois, qui crée des problématiques.
C'est surtout ce qu'il en fait qui est super.
Voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, il y a ce truc où ils sont attachés, et puis il y a ce moment, en fait, si tu veux, où la bagnole, ce qui est un moment totalement impossible, en fait. C'est pour ça que je dis, c'est un truc d'une idée de cinéma d'animation, quoi. C'est qu'en fait, la bagnole fait le tour, et en fait, quand ils finissent par arriver en bas des escaliers,
ils sont inversés
en fait, l'un a pris la place de l'autre en fait dans la voiture, et ils sont là, mais ils ont un temps d'arrêt genre, mais comment est-ce que c'est possible, tu vois, on l'a même pas senti quoi.
Ça marche trop bien.
Et ça marche parce que c'est du pur cinéma, c'est-à-dire qu'en fait en gros voilà, il y a ce truc là, donc moi ça m'a fait marrer. Il y avait ce moment-là.
Et c'est surtout que c'est les personnages. C'est-à-dire que c'est la cible. Ce sont les gens à battre. Ils sont jaunes. Tout le monde les voit. Tu peux pas les louper. Mais en même temps, ils sont petits. Ils sont malins. Alors que le personnage de Pomme Clémentef, elle est au volant d'une espèce de
Hummer,
Hummer, je sais même pas.
Ouais, enfin un tank quoi,
un truc monstrueux là. 4 et elle défonce tout en rigolant et tout. Moi, j'adore en fait, elle défonce un moment plein de scooters là. Et elle est comme ça, elle est en train de rigoler parce qu'elle défonce les scooters. J'adore en fait. C'est-à-dire que les personnages sont hyper nourris en fait par toute cette séquence, c'est ça qui
est tout à fait. Et en fait, il y a ce truc aussi de Mexican Standoff à un moment donné avec les bagnoles, tu vois, en fait, où elles se retrouvent au milieu où ils sont coincés en fait. Et t'as ce truc qui révèle aussi encore une fois quelle barbouze a le droit, en fait, quels sont les ordres des barbouzes, parce que t'as l'autre en fait, tu dis bon là ça fait je sais pas combien de temps qu'ils tirent, puis là d'un seul coup ils disent mais en fait si je tire la balle elle arrive. Donc je tue Tom Cruise et je tue en fait donc en fait j'ai pas le droit c'est pas dans mes ordres, donc il est obligé de, tu vois, et en fait
c'est surtout qu'il y a l'échange de regards avec Tom Cruise quoi à ce moment-là, et que Tom Cruise aussi,
et ça crée ça donne un petit peu de consistance, je trouve, à ces hommes de main en fait, si tu veux.
Et je trouve que d'ailleurs on a parlé des personnages secondaires, d'ailleurs on les a zappés, mais moi je trouve qu'il marche du feu de dieu, lui avec sa coupe en brosse tu l'identifies tout de suite, tu te dis c'est un peu le bon con mais en même temps le bon serviteur et tout, il marche hyper bien et tout, et à chaque fois qu'il arrive je comprends le personnage, je sais pourquoi.
d'ailleurs, ils ont, des conversations même philosophiques sur, sur l'entité, justement. Mais en fait, justement, qu'est-ce que t'en ferais si tu l'avais entre les mains?
Ça marche super bien. Bah, ouais, bien sûr, et ça marche super bien. Voilà. Bon, bref, on retourne sur la séquence.
Ouais, voilà. Donc, t'as ce truc-là. Après, comment dire, je trouve, elle renvoie un petit peu à la séquence de la moto dans le 5, dans Rogue Nation. En fait, elle a un petit peu ce type de.
Sauf que c'est un univers urbain. C'est ce qui n'était pas le cas en fait dans Rogue Nation où très vite en fait tu partais dans la pampa, donc ça change quand même beaucoup de choses quoi. Donc tu joues aussi beaucoup sur l'accident urbain, sur les marches d'escalier, sur l'étroitesse des rues romaines, sur tout ces jusqu'à la fin avec le métro en fait. Donc en fait c'est ça aussi que j'adore en fait, parce que ça fait partie du côté réjouissant en fait du film. Il y a un autre truc en fait dans cette scène de Rome, il faut quand même parler du truc, c'est qu'elle arrive un mois, deux mois après Fast and Furious 10, où c'était la meilleure scène de Fast and Furious 10, à mon sens, d'action.
On n'en a pas parlé.
Ça lui met à l'amende quand même. Hein.
Non, mais après,
tu vois, deux façons. Enfin, moi, j'aime beaucoup encore la phase de Fast 10, hein, la scène de Fast 10 avec la grosse boule. Mais tu vois la différence en fait de truc. Tu vois le truc de bourrin total où il se dit, je vais faire du cartoon à mort, quoi. C'est du bourrin, cartoonesque. Et là, tu vois le truc d'un mec qui réfléchit et qui a quand même des personnages à défendre, quoi. Ce qui n'est pas vraiment le cas.
Non, mais je pense qu'après, on parle de deux franchises qui sont diamétralement opposées.
Oui, mais justement, c'est hyper intéressant parce que tu pourrais te dire, c'est ton sur ton. Moi, je pense qu'eux, ils sont quand même un peu dégoûtés, et les uns et les autres, de se dire, on sort deux gros blockbusters d'action qui sortent à aussi peu d'intervalle, qui ont tous les deux une scène d'action de poursuite.
C'est un truc qui arrivait. C'est
vachement intéressant, en fait, de comparer les deux, quoi.
Là où c'est intéressant de comparer les deux, si tu veux, c'est qu'il y a aussi cette espèce de truc que c'est un truc qui arrivait quand même régulièrement à une époque à Hollywood. C'est-à-dire que moi, je me rappelle l'été 2003, il y a 20 ans, donc, tu vois, où t'avais trois poursuites sur l'autoroute dans trois blockbusters majeurs, tu vois, à une époque où il n'y avait pas. Il y avait moins de blockbusters qu'aujourd'hui, tu vois, et c'était, Bad Boys 2, c'était Terminator 3 et évidemment Matrix Reloaded, quoi. Et en gros, bon, tu vois, je veux dire. Et en fait, en plus, chacune de ces scènes, elles avaient leur mérite, en fait, propre. Quoi.
Mais c'est hyper intéressant, tu vois, tu pourrais presque faire une étude comparée.
Ah, oui,
c'est
oui.
un travail universitaire, tu sais, les études comparées entre deux tropes, par exemple, de narration et tout. Mais je trouve que là, il faudrait faire une vidéo de stéroïdes, Stéphane, avec une étude comparée entre ces deux scènes, parce que c'est hyper intéressant. Moi, je préfère nettement Mission Impossible, mais c'est hyper intéressant, en fait, de voir ces deux trucs, en fait, comment elles se tirent la bourre, en fait, là-dessus, quoi. Bref.
Voilà, après, il y en a une qui a été faite, parce qu'on le sait comment Fast X a été fait, hein. Il a été fait à l'arrache et tout, et le Terrier, il s'est pointé sur le plateau 5 jours après le début du tournage, en gros.
Et encore une fois, je trouve que le fait qu'il y ait des personnages dans l'une et pas dans l'autre, parce que dans Phase 10, tu peux rigoler, il peut te faire rigoler, babouliner, mais c'est plus des personnages pour moi, ces personnages, ces trucs-là, quoi.
Et encore, enfin, pour le coup, c'est un des trucs qu'il a essayé de faire revenir. Mais...
Ah ouais, un peu, mais ça n'a rien à voir. Et là, pour le coup, ils sont vraiment, je trouve, au cœur de la dramaturgie de la scène, quoi.
Mais totalement, mais après, moi, je pense que c'est vraiment, en fait, la problématique, c'est que ça a beau, je pense, dans l'esprit du public, c'est deux blockbusters, les mecs payent le même somme pour aller voir, en fait, les mêmes films et avoir le même, entre guillemets, dose de spectacle, tu vois, mais la réalité, c'est que, en fait, c'est deux projets, mais qui sont tellement différents pour moi que, oui, il y a cette.
Ouais, il y a l'ego trip, la star.
Ouais, ce point commun. Non, mais bien sûr, mais ça, je pense que ça participe de tout ce qu'est Hollywood. Mais en fait, le truc, c'est que tu pourrais le dire avec un Clint Eastwood aussi à la fin, tu vois. Le truc, c'est que, pour moi, en fait, déjà, je suis pas sûr que ce soit la meilleure scène de Fast X, moi, à la fin, bourrin pour bourrin. Je pense que quand tu fais surfer une bagnole en fait sur le barrage, si tu veux, en faisant une avalanche de feu, avec des plans de caméra qui t'as l'impression qu'il va rentrer dans le trou de balle de Vin Diesel, quoi, à un moment donné. Franchement, mon petit cœur de comment t'appelles ça de veau là, en fait, elle fait bon allez, je capitule, c'est fini, tu vois.
Donc il y a ça, et puis il faut quand même qu'on parle du train, quoi, du set piece final, parce qu'on a beaucoup parlé de Venise, donc à moins que tu veuilles aborder d'autres choses avant.
Non, et le train, c'est important parce que c'est quasiment la dernière heure du film. Hein.
Ah ouais, c'est clair, c'est énorme. Voilà.
Et d'ailleurs, il y a deux choses, en fait, c'est-à-dire qu'il y a deux points, la cascade, c'est-à-dire celle où il arrive, en fait, qui est la fameuse cascade qu'il a sur
Vendée,
voilà, qui... Moi, je trouve, en fait, fonctionne pour une raison assez simple, finalement, c'est que, étrangement, ce n'est pas le saut.
C'est ce qui se passe après.
C'est le fait que en fait il utilise le parachute et que tu vois Tom Cruise en fait là-dedans et tu dis ouais là je te crois que t'as fait la cascade.
En fait il y a deux trucs là-dedans. Moi je trouve c'est effectivement là, c'est le plan surtout ce plan de parachute où il le déplie, où il se retrouve projeté parce que le mec qui filme n'a pas déployé son parachute encore et qui a un plan effectivement très impressionnant. Et il y a surtout cet autre plan où il parle à Benji et il a le visage complètement déformé par le vent et qui a un plan hyper marquant en fait où tu te dis donc il est vraiment là. Et c'est surtout il joue avec enfin imaginons qu'il y a Simon Pegg, il joue bien Tom Cruise alors qu'il est dans le bordel.
C'est là où tu te dis, c'est la distinction que je trouve en fait, c'est que le saut en soi est sympa, mais en fait.
Il est un peu bouffé par le numérique, je trouve.
Ouais,
en fait.
C'est-à-dire
que je trouve que la roche numérique, et je crois que c'est ILM en plus qui l'a fait ce truc-là, mais la roche numérique sur laquelle il saute, qui cache donc la rampe que vous avez tous vue, j'imagine, parce qu'elle a été. Montrée sur le truc, elle est pas hyper bien en fait et bon c'est simple, c'est pas désagréable du tout à voir hein.
Mais c'est la distinction. C'est la distinction en fait quand tu regardes par exemple la scène où il monte, où il grimpe le Burj Khalifa, tu vois au-delà c'est impressionnant. Et c'est impressionnant de le voir lui faire ça parce qu'en fait il y a un truc de réalisation aussi autour de ça qui là manque un petit peu. Ce qui fait que en fait si tu veux je dirais qu'il y a deux points inversés. C'est que en fait dans un Mission Impossible 4, Brad Bird en fait arrive totalement à mettre en scène et à utiliser l'idée que Tom Cruise fait ces cascades là, alors que là en fait si tu veux c'est Tom Cruise qui sert le film plus que le film ne sert Tom Cruise à ce moment-là. C'est la distinction entre les deux, mais ceci étant dit, il y a quand même ces plans dont on a parlé qui sont assez impressionnants et tout où tu te dis ouais là pour moi le premier je chie sur l'idée qu'en fait il a essayé de faire croire qu'il a fait cette cascade 13 000 fois et patati et patata, tu vois, parce que c'est toute la promo dans laquelle il va
en fait, c'est que la réalité de la situation
il l'a fait, a
donné des idées de plan en fait. C'est-à-dire que je pense que dans l'absolu, toutes ces images-là, c'est-à-dire que son visage était aussi vachement déformé dans le premier Mission Impossible quand ils étaient sur le TGV, alors que tout était tourné sur fond bleu et c'était pas gênant. Mais le truc, c'est que
des turbines énormes.
C'est l'idée en fait de ce qui me plaît en fait dans le truc, c'est l'idée, la dynamique du truc. Parce que du coup tu comprends comment c'est violent en fait de déployer un parachute. Mais je l'ai jamais fait, j'ai pas du tout envie de le faire. C'est pareil avec le truc, c'est qu'il joue avec ce truc là en fait. Du coup c'est ça qui fonctionne en fait dans la scène.
Voilà.
Et après sur le train c'est inégal, hein, y a des trucs qui fonctionnent plus ou moins. Il y a un petit truc avant les scènes d'action que j'adore moi, c'est Vanessa Kirby qui est aussi une autre actrice que je trouve super bien en fait, et ça avait été une déception dans Fallout parce que moi je l'attendais en fait, j'attendais de voir.
Alors que tu l'as adoré dans Hobbs & Shaw.
Et là en fait elle joue donc elle est Atwell qui porte son truc. Qu'est-ce qu'elle joue bien quand même, quelle super actrice elle aussi quoi. Elle est vraiment géniale quoi, parce que elle joue donc la veuve blanche, c'est ça je crois son surnom.
Tout à fait.
Et donc elle a toujours ce truc hyper glacial où elle joue vraiment, et elle a une tête qui correspond parfaitement à ça, je trouvais, avec ses grands yeux, elle a un visage, elle est aussi magnifique, mais elle a quand même un visage très atypique, Vanessa Kirby quoi. Et là elle fait un peu la meuf un peu merdeuse là.
Parce qu'en fait elle le joue par le biais du personnage de Grace, puisqu'en fait elle porte un masque quoi.
Mais elle est aussi tu vois, ça fait partie des petits trucs qui sont vraiment agréables à voir dans le film.
En fait, je pense, une utilisation de l'humour dans celui-là qui est beaucoup plus,
intradiégétique, en fait.
Voilà, c'est pas.
C'est-à-dire, c'est pas des clins d'œil, en fait.
Non, mais c'est pas au niveau alors, c'est pas tout à fait non plus au niveau de Brad Bird, évidemment, tu vois.
Non.
Parce que Brad Bird, il arrive à te faire des vraies séquences comiques, en fait, par la science.
Avec les gadgets, ouais.
Et puis son découpage et tout ça, etc., etc. Là, en gros, si tu veux, c'est des petits Deus Ex Machina, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, elle est braquée, elle s'est fait avoir, et puis t'as Tom Cruise qui rentre qui défonce le wagon, tu vois, et qui voilà. Mais c'est un Deus Ex Machina.
Complètement.
Sur le papier,
mais sauf que c'est là aussi que tu vois.
Le côté cartoon.
Ouais, mais tu vois que McQuarrie est un bon écrivain quand même. C'est-à-dire que le mec sait que là, il peut se permettre ça.
Et ça marche.
Et que ça marche. C'est-à-dire que tu te dis pas, putain, qu'est-ce qu'il fout là, lui. Non, ça marche. C'est-à-dire que t'as fait suffisamment souffrir tes héros et tu as suffisamment montré leur valeur auparavant pour que tu puisses accepter qu'ils aient ce coup de chance en fait monstrueux à ce moment-là. Et tu dis ok, c'est bon, je l'achète.
Ça marche.
Et en plus, le gag est suffisamment payant pour que tu passes l'éponge là-dessus.
Et il amène en fait la dernière partie de la scène d'action. C'est-à-dire avant d'arriver à la dernière partie de la scène d'action, il y a tout ce moment sur le toit.
Inégal pour le coup.
Qui est inégal. Alors déjà parce que tu sens un petit peu les transparences en fait, ça c'est le premier point.
Pas les transparences, les incrustes.
Ouais, les incrustes et tout.
Tu vois la différence de tessiture de lumière. Ouais,
voilà. Et ensuite il y a le truc qui est bien, c'est on en revient à cette idée, c'est ce que je disais en fait sur le code moral du personnage, c'est que par exemple en fait on arrive à un point de culmination, en fait, où, en gros, si tu veux, tous les barbouzes qui lui courent derrière, en fait, finissent par attraper Tom Cruise. Tu te dis, OK, ça va se jouer comment, humainement, en fait, si tu es avec ces personnages-là. Et quand t'as justement, en fait, des moments où il manque de se prendre un panneau dans la gueule ou un truc comme ça, t'as Tom Cruise qui les attrape et en fait qui les baisse avec eux. Il pourrait se débarrasser d'eux comme ça.
Mais ça marche.
Et dans n'importe quel film d'action avec Schwarzenegger, n'importe qui, ça aurait été fait comme ça. Mais là, en l'occurrence, si tu veux, justement, en fait, lui, c'est non, vous êtes des humains.
Et vous allez peut-être m'arrêter tout de suite, mais j'ai pas l'impression que c'était à ce point-là. Je reviens encore là-dessus sur la conception d'Ethan Hunt. J'ai pas l'impression que c'était à ce point-là souligné sur les précédents. J'ai pas souvenir en fait d'un des épisodes qui à ce point-là soulignait le truc.
Dans
quoi.
Son humanité. Ouais.
J'ai pas l'impression quoi. Et c'est vrai que ça fait c'est vraiment bien. Et
après, le film démarre sur le principe des anneaux qu'on avait déjà à la fin de Ghost Protocol, qui est que je travaille pour mes proches. Oui, je protège mes proches.
Oui, mais c'est pas pareil là.
Pour le coup, mais là pour le coup, l'incarne vraiment. Ouais, ouais.
Parce qu'il était amené par J.J. Abrams. Hein, pour ouais. le coup, le côté c'est ma famille, c'est les miens, je me les protège. Et ce côté code moral dont parle Steph en fait depuis tout à l'heure et dont on a déjà parlé sur la constitution. Je mets juste une petite bille sur un truc qu'on a déjà évoqué, mais je trouve qu'on a vraiment ça nourrit le personnage et ça participe à la réussite du film. Et pour le toit, pour le truc sur le toit du train, moi je suis d'accord, hein, c'est pas la meilleure scène du film, loin s'en faut. C'est pareil, je trouve que c'est pas déshonorant, c'est pas un truc qui m'a fait sortir, mais c'est pas un truc que je retiens. Mais il y a quand même un truc que j'aime beaucoup, qui est cette scène où ils sont sous le tunnel, qui est hyper proche en fait du machin.
Ouais.
Tu l'as déjà vu à peu près ça dans Speed par exemple ou des trucs comme ça, mais à ce point-là en fait. Ils sont obligés et il y a une espèce de combat au couteau qui commence à commencer. Alors c'est pareil, Macquarie étant Macquarie, il le pousse pas au Pina comme aurait pu le pousser. Ça manque d'un petit payoff en fait, ce petit truc là. Il y a un petit truc où tu te dis ah, t'aurais pu pousser un tout petit peu plus, mais c'est cool déjà. Elle est sympa, c'est sympa. Quoi,
donc t'as le crash du train après.
Ah
c'est-à-dire bon, voilà.
Et
donc,
là on arrive
en fait, avec
morceau.
Les wagons, avec les wagons qui commencent à se détacher, etc., etc. Et les trucs qui tombent et tout. Et t'as ce plan qu'on voit dans la bande-annonce hein, où t'as Tom Cruise qui est rattrapé par je crois la nana. Hein, si je dis pas de bêtises, par Grace quoi. Ouais. Et en fait en gros où c'est toute évidence, il a fait sa cascade lui-même, pas du tout sur fond vert. Hein, voilà. mais bref. Et le truc c'est que donc en fait il se fait attraper. Et du coup en fait chaque wagon commence à chuter de
génial.
Nouveau et donc en fait si tu veux tu te retrouves avec des wagons à la verticale
en fait tu changes de décor
voilà
et à chaque décor t'as un nouvel enjeu
et t'as les dangers puisqu'en fait t'as tous les
wagons
t'as les objets en fait qui commencent à qui se mettent à chuter, il faut les éviter. Donc en fait d'un seul coup ça commence tout doucement avec la cuisine si tu veux où les mecs ils sont en train de je crois qu'il y a
non, c'est pas
un
la
truc
cuisine.
Avant
c'est t'as d'abord un wagon un peu lambda quoi dans mon souvenir bon ils arrivent à remonter t'as déjà cet enjeu là et tout avec la verticalité après à la cuisine. Alors la cuisine, ce qui est génial, c'est que bah, c'est une cuisine. Donc j'ai failli mettre le feu à une cuisine d'une copine il y a pas longtemps, en faisant la bouffe pour ses gosses. Et donc bah une cuisine, ça prend feu.
Ouais,
tu
ouais,
vois,
ouais.
Et voilà. Et donc là, c'est ce qui arrive. Donc ils ont le feu qui est en plus. Après, il y a encore une autre étape avec le piano. Et
alors
tout
mais ça, c'est génial
salon,
parce qu'en fait,
c'est
le reveal du piano qui est mortel. Parce qu'en fait, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit OK, c'est Bip Bip et le Coyote.
Ah,
tu vois là, c'est en fait,
c'est
moi j'ai pas pu m'empêcher de rigoler, tu vois, dans ce moment-là, parce que tu te dis, il va se prendre un piano sur la gueule.
C'est mortel.
et quelque part, alors cette scène, elle renvoie un petit peu à la scène de comment ça s'appelle dans le 4 encore une fois hein, on cite beaucoup le 4
bah
hein,
ouais,
rien voilà
c'est
la
clair.
Scène on cite avec les bagnoles tu sais avec le tu sais à la
parking,
fin
le
dans le parking en fait mural
alors oui à ceci de différence que là en fait là, moi je trouve aussi ce qui est hyper ludique c'est que c'est
très écrite cette scène
ouais mais c'est un vrai au niveau de scène d'action et donc probablement plus de l'écriture que de la réalisation. Pour moi, c'est presque un cas d'école. Il faut que je le revoie pour vraiment arriver à dire un truc comme ça. Mais je pense que ça va rester une référence pour moi. Il faut que je le revoie.
En fait, t'as l'impression d'être dans un comment ça s'appelle dans un Buster Keaton en fait.
Ouais,
c'est-à-dire qu'en fait,
c'est
dans un truc.
Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu te retrouves t'as une variété de décors en fait. À chaque fois, t'as le décor qui est renouvelé. T'as une répétition, en fait, t'as une variation sur le même thème qu'un truc dans l'action qui fonctionne toujours hyper bien. C'est-à-dire que c'est Jackie Chan dans Contre-attaque, je crois. Tu le vois avec cet escabeau, tu vois, et tu te dis bon, il a un escabeau.
Jackie Chan dans le Bronx.
Qu'est-ce qu'il va
Non,
je crois que c'est Contre-attaque.
Escabeau.
Ouais. Et je suis à peu près sûr, oui, là, cette espèce de salopette jaune, je revois la scène. Mais on vérifiera, les commentaires nous le diront. Mais donc il fait plein de trucs. C'est un truc que je cite cet exemple, j'aurais pu en citer d'autres, mais oui, il te dévoile une variété de possibilités incroyables. Il y a de ça en fait dans cette scène où tu te dis bon, ils sont dans un train qui est en train de chuter. Tu vas voir la répétition puisque t'as minima 3 voire 4 wagons à la suite, quoi. Tu dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, il y a une variation à chaque fois. Ils te renouvellent les enjeux, ils te renouvellent le truc. Et t'as un truc aussi où t'as l'impression qu'elle dure très longtemps sans que tu t'ennuies. C'est génial, les scènes d'action, je trouve, quand elles font ça. Je trouve que quand une scène d'action dure très longtemps, parce qu'on en a vu plein des scènes d'action qui durent très longtemps, tu t'emmerdes un peu. Et là, elle dure très longtemps. En tout cas, t'as cette impression d'être rassasié, d'avoir un truc de tension énorme, et en même temps, tu t'emmerdes pas une seconde.
Parce que
c'est renouvelé.
À ce stade, en fait, on va dire, parce qu'on arrive vers la fin du film, et donc quelque part vers la fin du podcast. Et en fait, il y a quand même ce truc, en fait,
comme quoi c'est bien fait. Hein.
De macro-enjeu et de micro-enjeu. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, tout pour moi, ce qui fonctionne dans le film, c'est que en fait, ils arrivent à se renouveler dans les micro-enjeux. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu vas être dans truc où alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un train? Qu'est-ce que De Palma n'a pas fait dans son train à lui, tu vois, quand il y avait la scène de train, tu vois, ce qui bon, elle se ressemble pas vraiment à la fin, mais c'est sur un train quoi, tu vois, mais par contre c'est un trope de film d'espionnage, c'est un truc Hitchcock a fait.
En plus c'est un train un peu à l'ancienne qui est en plus dans un environnement absolument magnifique puisque t'es dans les Alpes autrichiennes, je crois.
Ouais, c'est ça. Ouais. Même si en l'occurrence ils ont tourné en Norvège. Mais
non, pas tout. C'est le saut en moto
qui est en Norvège.
En Norvège, je crois que ça, non. Ils ont tourné en Italie une grande partie et tout. Bah, ça y ressemble en tout cas.
Et le truc, en tout cas, c'est que bon, donc en fait, ils travaillent très très bien ça. Ils travaillent très très bien finalement, tout ce qui se passe plus ou moins personnel. Je dirais peut-être, j'enlèverai un petit peu ce qui se passe avec Esaïe Morales. Je trouve pas ça génial, tu vois. Mais je pense que ça participe. En fait, la problématique d'Esaïe Morales et de ce personnage-là, là, de Gabriel, c'est qu'en fait, c'est lié à l'enjeu macro pour moi. Et en fait, la problématique des enjeux macro, c'est Mission Impossible, c'est que t'as l'impression que ça s'appelle Mission Impossible, mais c'est toujours un peu facile pour eux, tu sais, d'arriver à faire leur truc à la fin. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est le missile qui s'arrête dans le 4, en fait, tu sais, parce qu'il appuie sur le bouton et que en fait, il tape dessus et que ça s'arrête, quoi. Tu vois, que le truc s'arrête avant d'arriver de percuter le non, d'ailleurs, il le percute, mais il percute sur le côté, quoi. Et je trouve, en fait, si tu veux, c'est t'as toujours à deux doigts de la catastrophe. Et là, normalement, avec cette entité là. Tu devrais en fait arriver à la... et surtout que c'est les derniers films, ils ont dit c'est on arrête après ça quoi, c'est fini Mission Impossible, tu vois. Tu dis bah en fait c'est heureusement que t'as cette grosse scène d'action complètement folle, tu vois, parce que je pense qu'en fait en tant que spectateur, je serais resté sur ma fin en me disant mais en fait vous avez résolu quoi là finalement la fin dans ce film, tu vois. Certes, il y a une suite qui arrive, tu vois. Apparemment, vous l'avez pas encore écrite, mais elle arrive, tu vois. Et en fait le truc, si tu veux, c'est que t'as envie
ils ont résolu qu'ils ont la clé quand même. C'est quand même pas rien.
Mais bon,
hein.
Tu vois, enfin moi quand ils font revenir le dernier plan du film où ils partent dans le sous-marin, tu fais ouf, tu vois, bon, OK, d'accord, tu vois.
Bah, après
on va voir mais le truc c'est tu
si la question, ce qui te gêne vraiment c'est comment dire la puissance du cliffhanger, elle est pas très
puissante.
C'est
pas que la puissance du cliffhanger parce qu'en fait moi ce que j'allais dire c'est plus le côté
après l'enjeu de cette scène-là,
c'est le côté presque serialesque en fait, si tu veux, c'est-à-dire qu'en fait en gros série télé presque en fait par moment, tu vois, c'est-à-dire que le truc où tu te dis mais là moi j'aurais aimé que en fait dans votre feu d'artifice où les micro-enjeux sont géniaux, tu vois, bah en fait ça se recoupe avec le reste et en fait on sort totalement sur une satisfaction, mais là c'est bon, bah alors on repart à l'aventure, ça y est, on a ce qu'il faut,
c'est pas faux.
Et je trouve qu'en fait, si tu veux, pour le grand final, hein, puisque c'est censé être ça, hein, sur une saga qui maintenant en fait va s'étaler sur logiquement une trentaine d'années, enfin parce que s'ils l'ont pas écrit, ça sortira pas en 2024, donc on va peut-être l'avoir en 2025 ou 2026, tu vois. Et le truc, si tu veux, c'est que bah ça sera les 30 ans de Mission Impossible du premier. En fait, du premier film, on a quand même un truc qui est représentatif de toute la carrière de Tom Cruise, hein, mine de rien en fait, déjà d'une part parce que c'est lui qui produit. C'est lui qui chapeaute tout. En fait, c'était même sa toute première production à l'époque, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, quoi. Et que, en fait, l'idée, si tu veux, c'était, bah, je vais créer ma propre franchise, alors que jusque-là, j'étais un acteur qui se retrouvait dans tous les films, tu vois, si tu veux, qui choisissait les films au cas par cas, quoi. Et d'ailleurs, je crois, il a essayé avec Jack Reacher d'en avoir une autre. mais en réalité, et puis il y a évidemment Top Gun maintenant, mais qui est quand même une suite extrêmement tardive, hein. L'idée, si tu veux, c'est que jusque-là, en fait, Tom Cruise, c'était Mission Impossible. Sa vraie franchise à lui, son vrai, comment dire, terrain déjà de contrôle. Et ensuite, j'ai envie de dire presque aussi d'expérimentation sur son star power, quoi. C'est-à-dire vraiment, qu'est-ce que je fais avec ça
Non, mais là, il est avéré. Moi, je pense que ça va être le carton de l'été. Tu vois, tu parlais d'Oppenheimer et de Barbie et tout. Moi, je suis sorti de ça. On verra. Peut-être que l'avenir me donnera tort et tout. Mais à mon avis, il va à nouveau cartonner. En fait, il va refaire un Top Gun avec.
Je sais pas s'il va refaire un Top Gun, mais en tout cas, c'est un vrai crowd pleaser. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas l'enlever au film.
Crowd pleaser.
Ah, exactement. Bah ouais, tu vois, c'est les termes. Tu utilises le terme blockbuster, non? Bon, bah voilà. Tu vois, c'est un crowd pleaser. C'est vraiment un truc pour le public, en
c'est
fait.
C'est clair, mais
voilà,
c'est sûr.
Qui se fout pas de la gueule du public.
Non.
Moi, là où je suis un tout petit peu, comment dire, tu vois, je mets un tout petit bémol quand même sur cette notion de « je vais sauver le cinéma », si tu veux. C'est que pour moi, le cinéma, c'est ce que moi, la façon dont je perçois le cinéma, si tu veux, c'est un langage. Et je trouve que là-dedans, si tu veux, ça pourrait aller plus loin.
Là, on est autre chose, en fait, sur le sauvetage du cinéma. Et c'est la même chose avec Amande. C'est que je pense que c'est juste... le plaisir du spectacle, d'aller voir ce truc-là, en fait. C'est même pas une question de mise en scène, en fait. On est au-delà de ça. J'ai presque envie de dire, quelque part, et tu sais l'importance que j'accorde aussi à ça, quand même, quoi. Mais je pense que c'est pas hyper important, en fait. Le truc fondamental, c'est est-ce que tu as envie d'aller voir ça en salle ? Est-ce que tu seras content en sortant ?
Moi, je pense
là,
que
c'est une évidence que les gens qui vont aller le voir, ils vont être contents.
Je pense que même le grand public, en fait, qui n'a pas forcément, qui se pose pas ces questions que nous, on se pose sur la mise en scène, sent ce truc-là.
C'est marrant parce qu'en fait, dans les défauts du film, bon, il y en a quelques-uns avérés et tout, on parle surtout, mais je trouve que c'est plutôt bon signe, en fait, pour le film, de ce qu'on aurait souhaité que le film soit, et pas de ses manquements. Tu vois, depuis le début. On a dénoncé quelques manquements, mais je trouve que c'est plutôt bon signe sur la qualité du film, quand même.
Après, voilà, donc moi, c'est ce que je disais. Évidemment que, en fait, dans le cadre de ce qui sort, en fait, depuis quelques années, l'été à Hollywood, si tu veux, c'est quand même le haut du panier. D'une certaine manière, je pense que certaines personnes auraient pu dire la même chose sur au moins une grosse partie des séquences de Fallout, hein. Tu vois, le saut dans le vide, tu vois, ce genre de choses.
Fallout, c'était vraiment pété, quoi.
Mon problème, c'est qu'à partir du moment où, tu vois, je vais voir un film de Macquarie et que le film, en fait, il y a pas de scénar et ils le disent, tu vois, je veux dire, c'est problématique, quoi. Mais là, en l'occurrence, c'est un peu mieux conçu de ce point de vue-là, tu vois, enfin largement.
Merde.
Et à la fin, si tu veux, si tu mets tes attentes sur le potentiel de ce que le film aurait pu raconter vis-à-vis de finalement la franchise, tu vois, on en ressort finalement assez satisfait, quoi. C'est-à-dire,
je suis assez satisfait. Très content d'avoir vu ça, j'ai hâte de le voir avec ma famille.
Je suis assez satisfait, et effectivement, moi, il n'est pas impossible que j'y retourne. Mais c'est vrai qu'après, il n'y a pas non plus, cet été, après Mission Impossible. Finalement, on va rater Oppenheimer, on va rater, Barbie.
J'ai très envie de voir Oppenheimer.
Non, mais en podcast, je veux dire, pour on va l'écrire.
Mais le truc, c'est que, bon, c'est peut-être pas un mal qu'on termine là-dessus, mais on en a déjà parlé pour Flash, c'est que je pense que, est-ce que l'industrie hollywoodienne est encore valide aujourd'hui dans le cinéma? La question se pose vraiment, notamment quand tu vois un film comme Flash. Vraiment. Et même, j'ai envie de dire, quand tu vois, et pourtant je l'ai défendu, hein, quand tu vois un film comme Indy 5. C'est-à-dire que quand tu vois Indy 5, tu te dis, mais est-ce que c'est encore valide? Est-ce que c'est normal qu'on mette 300 millions de dollars pour produire un film comme ça? C'est-à-dire que moi, j'y trouve mon compte dans Indy 5, mais je comprends que, à mon avis, le film va pas marcher, là, pour le coup, et je comprendrais, en fait, qu'il marche pas. Je comprends, en fait, ça. Et en fait, Mission Impossible, et quelque part, Top Gun me disent, non, en fait, c'est ça aussi, je pense, le truc de Spielberg, c'est que là, je me dis, non, ils ont encore de beaux jours devant eux. C'est-à-dire que s'il y a encore des mecs comme Tom Cruise qui reprennent le truc et tout en main et qui se donnent les moyens de faire ça, je comprends qu'Hollywood puisse encore exister. Mais il y en a très peu, en fait, pour le coup, des trucs comme ça.
Il y a beaucoup de conversations autour de l'idée de comment est-ce que le Hollywood va devoir se renouveler. Tarantino, par exemple, récemment a fait une référence, évidemment, au nouvel Hollywood et à la façon dont
ça
toute la périclité à la fin des années 60. La vraie question, c'est est-ce que Hollywood va pouvoir vraiment se renouveler? Ça, c'est le premier point. Et la, mais par contre,
Je ne sous-estime jamais la capacité de résilience d'Hollywood en particulier et des États-Unis en général.
Et surtout, c'est un énorme système, en fait, de toute façon. Donc, en fait, il ne peut pas se cracher d'un seul coup. Et l'autre truc, c'est que moi, je pense à tout prendre, ce que Tom Cruise fait là, éventuellement, en tout cas peut-être pour les 10 prochaines années de sa carrière, tu vois, c'est s'assurer sa place en salle, au cinéma.
Ah oui,
c'est-à-dire sur grand écran. Et dire, je travaille pour ça, je milite pour ça, je suis dans cette direction-là. Là où, effectivement, tu vois, même un mec comme Cameron, que j'admire profondément, quoi, hein, dit, bah, si on doit aller sur Netflix, on ira sur Netflix, qui, moi, me fait un peu chier quand je l'entends
dire ça. Ouais, ça fait mal au cœur.
Ouais, mais le truc, c'est que... voilà, Disney+, en l'occurrence. Mais le truc, si tu veux, c'est que... et en sachant que... il n'aura pas cette finition-là. C'est-à-dire, il n'aura jamais la finition qu'il y avait sur Avatar 2, en fait, chez Disney+. Quoi. Tu ne peux pas, en fait, faire un film à potentiellement combien ça a pu coûter Avatar 2.
La question, mais c'est d'autant plus incompréhensible que ce discours de Cameron que et quand bien même c'était un rendez-vous manqué, ça faisait partie des problèmes pour moi de La Voix de l'eau. Mais quand tu inities des trucs comme le relief d'abord et la haute fréquence ensuite, c'est aussi une façon de réclamer le droit au cinéma. Parce que pour moi, c'est un des gros problèmes à Hollywood aujourd'hui, c'est leur incapacité à innover techniquement en profondeur sur l'expérience du spectateur. C'est ça. Hollywood a toujours fonctionné comme ça et ça fait partie des problèmes. Mais on verra. Moi, je pense que de toute façon, tant qu'à faire, et quand tu vois un studio malade comme la Warner, c'est pas plus mal que ça se crache. Et puis après, je vois Mission Impossible, je dis merde. j'ai pas envie que ça se crache totalement. Moi, je suis très... C'est ça aussi qui est cool, c'est qu'on en a beaucoup parlé, on a fait les érudits peut-être, ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas sur le Mission Impossible et tout. Moi, je suis content quand un film me fait sentir un enfant, quoi. Et j'étais un gamin, en fait. J'étais à plein de moments, moi, quand le truc se crachait et tout, à la fin, j'ai dit « Ah !» J'avais 7 ans, quoi. C'était cool, quoi. Bref.
Est-ce qu'on en reste là?
Bah, ça me semble pas mal. Alain, t'as pas beaucoup entendu finalement. T'as kiffé, toi, quand même.
L'entité, un peu c'est, pareil, l'entité, c'est Netflix.
Je partage complètement ton enthousiasme. Moi, effectivement, je suis. On peut avoir des réserves si on a envie de faire les pointilleux.
C'est indéniable.
Ah là, putain, merci Alain, merci. Allez, sors. Allez, c'est bon, ça suffit. Quoi.
Honnêtement,
je vais t'encher là.
Mais non, parce que moi aussi.
Si on veut enculer les mouches.
Non, mais moi aussi, si tu veux, j'ai des frustrations.
Ils ont forcément des réserves.
Non, mais quand je vois par exemple la scène dans la ruelle entre Pomme et Tom Cruise.
Entre Pomme et Tom.
Ouais,
ça va.
J'ai peur d'écorcher son nom de famille, je m'excuse.
Clémentief.
Vous êtes pas sûr.
Oui, moi je suis bon, sûr
bref,
moi-même.
moi, par exemple, il y avait la première idée qui m'est venue quand je les ai vus serrer et lui qui était pris en sandwich, je me suis dit, mais il y a la verticalité, tu montes, tu fais un truc.
Enfin, oui, à la Seven Swords de Twerk.
Ouais, moi je voyais des trucs à la Jet Li et tout. Enfin bref, il est pas dans Seven Swords, mais voilà. Il y a toujours des petits résidus où tu te dis, ah ouais, on aurait pu mieux faire, mais quand même. C'est malgré tout, enfin vous l'avez très bien dit, il y a de quoi s'amuser. Quoi.
Ah ouais, c'est clair.
On peut reprocher effectivement que le côté cartoon soit pas complètement bien mis en scène, mais on parlait tout à l'heure du tonneau. Il y a aussi juste la séquence d'après, il y a le côté Tom et Jerry que j'adore, où il y a donc le personnage de Paris, donc de Pomme Clémentief. Coincé dans sa voiture et l'autre qui arrive pas à redémarrer, ça
c'est génial.
C'est comme la petite souris qui met le turbo et qui est en train de tourner. C'est génial,
c'est
quoi.
Super, ouais.
Et c'est hyper fun. Et bien sûr. Enfin voilà, moi j'ai pas boudé mon plaisir. Quoi.
Ah bah non, c'est clair.
J'ai jamais vu autant de gens se lever pour aller pisser pendant le film.
Ça c'est vrai.
On a vu la séance en fait. Il y a
tu sais pourquoi
20 personnes qui se levaient
pour aller pisser. C'est parce qu'en fait dans les projets Paramount ils te donnent à boire et donc tu siffles ton coca avant. Voilà.
Moi je me suis barré aussi quand on était en train de briefer.
J'ai été revenu, j'ai dit t'as raté la scène de la cascade en moto. C'est con. Bref, bon.
On peut conclure.
Eh ben écoutez, voilà. C'était le dernier.
C'est le dernier
enregistrement ici. Moi, ça me fait tout bizarre. Je vais me faire une photo là avec le truc.
Et le truc, c'est surtout en fait, il y aura d'autres stéroïdes la semaine prochaine. Alors, je sais pas.
Oui, on a
encore tout à fait.
Plein,
voilà, ouais. On n'a pas encore décidé de l'ordre et tout. On vous laisse pas tout seul cet été, évidemment. Mais pour ce qui concerne l'été hollywoodien 2023. Pour l'instant, on tire notre révérence. Voilà. Donc, on reviendra à la rentrée.
On tire notre révérence à ce décor. Enfin, voilà. Pour moi, en tout cas.
Voilà. On reviendra à la rentrée dans un nouveau décor avec un nouveau sale temps. Et là, on reparlera, on verra si on fait un petit retour sur Oppenheimer et tout ça.
Je trouve qu'on l'a jamais fait. Je serais d'avis d'avoir des.
On avait fait un retour l'an dernier, hein, c'était pas là, toi, mais on avait fait un retour sur Nope et tout ça.
Ah oui, d'accord, ouais. Ok, ouais. Parce que je me rappelle que l'année d'avant, j'avais suggéré qu'on le fasse et tu avais dit non, on va pas le faire, je sais plus pourquoi.
Parce qu'en fait, on faisait pas d'émission. Là, en l'occurrence, ça collait avec l'idée de faire Saltan pour un film avec plusieurs films.
Bien sûr.
Voilà. Merci Julien de me l'accorder.
Non, Steph, allez.
Merci Julien de me l'accorder. Alain. Un petit mot, puisque t'as le micro, en fait, pour nos tipeurs.
C'est toi le chef. Hein.
C'est vachement important. Non, parce qu'à chaque fois, en fait, c'est vrai. Alors, on a dû faire une heure et demie encore, là, sur cette affaire.
Tout à fait.
Voilà, c'est ça. Donc, putain, vous avez une heure et demie de stéroïdes sur Mission Impossible, quoi. Mais on a refait toute la saga, hein. C'est pour ça, quoi. Ne nous en voulons pas.
En fait, comme t'en avais jamais parlé avant, en fait.
Ouais, c'est vrai. On se disait, ça vaut le coup de refaire. Ça valait le coup de revenir un petit peu dessus, quoi. Mais en même temps, il y a plein de super vidéos sur Internet, hein, sur ça. Moi, je sais que Bobine, ils ont fait une vidéo sur, sur Mission Impossible. Voilà, donc repasser derrière, est-ce que c'est vraiment important? Puis tout le monde connaît un peu, c'est quand même très connu, Mission Impossible aujourd'hui, quoi. Tout le monde sait comment ça s'est un peu fabriqué. Toutefois, en fait, donc voilà un petit mot pour nos tipeurs, hein, pour les remercier, en fait, de leur soutien. Encore une fois, c'est important pour nous, surtout maintenant qu'on va encore un peu plus se professionnaliser, j'ai envie de dire.
Oui, on est un peu contraints, ça fait longtemps, comme on vous l'a dit et tout, donc on a beaucoup d'étapes à franchir, et Capture va continuer, en tout cas pour l'instant, voilà. mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui font que nos implications diverses et variées sont aussi un peu... tout ça est très précaire.
Et on est beaucoup, en fait, mine de rien aussi. C'est ça le truc, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas juste un youtubeur, tu vois.
Et que ce soit Alain ou Stéphane, leur investissement est total. Vous avez pas idée, en fait.
L'investissement de chaque personne, même, en fait, à son niveau, c'est pas la question. Ouais, quand tu prépares le long podcast et que t'as 9 pages de notes, c'est sûr. Ouais, mais moi, je regarde les films, c'est tout, quoi, tu vois. Je vous laisse parler, mais je sais que vous allez surcompenser. Et du coup, en fait, le truc, c'est que, non, mais après, et on a conscience aussi d'un autre truc, c'est qu'on sait, en fait, que c'est pas forcément facile en ce moment pour n'importe qui, en fait. Voilà. Donc même, en fait, aider, c'est s'abonner, en fait, sur YouTube, ça nous aide, en fait. Ça a l'air con
vous
comme
vous
ça,
abonnez,
mais en fait,
si vous pouvez mettre un petit com, si vous pouvez partager sur un de vos réseaux sociaux, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ou le conseiller, comme le dit Clémence, toujours de façon un peu systématique. Donc j'ai l'impression comme c'est très écrit et très dit au début de Saltan. Tu l'entends plus trop, en fait, ça, mais il faut en parler vos amis. Mais c'est vrai que si vous appréciez en tout cas notre travail, si vous l'appréciez pas, c'est autre chose, quoi. Il y a pas de problème. Mais si vous l'appréciez pas, vous êtes plus au bout d'une heure et demie.
Normalement.
Et voilà, c'est tout, en fait. Capture va évoluer parce qu'on est de toute façon contraint d'évoluer et se pérenniser grâce à vous. Et sans vous,
Non, il y a ça, et puis en fait, c'est encore une fois, il y a ce truc, c'est que effectivement, il y a la problématique financière.
Faut le dire au bout d'un moment.
Et après, il y a la problématique en fait de visibilité, c'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, pour nous, ça a l'air con. Je sais qu'on voit, enfin, vous avez ça, vous avez l'habitude quand vous allez sur YouTube, des gens qui vous disent, abonne-toi, mets la cloche, machin, tralala. Mais le truc en vrai, c'est que en fait, pour nous, plus on est vu, plus on est sollicité, plus on est visible. Et en fait, plus on peut gagner en indépendance, en fait, tout bêtement. C'est aussi bête que ça. Et mine de rien, en fait, quand on défend le type de cinéma qu'on défend, la manière dont on le défend, c'est important. Pour nous, c'est un pur truc de passionné. Donc, en fait, voilà, c'est là, en fait, où on s'est dit...
Il y a des podcasts qui sont financés par des studios, par exemple. Faut que et c'est vrai que si tu fais un podcast qui est financé par un studio, bah, tu dis pas ce qu'on peut dire.
T'as pas à dire
Flash,
ce genre de choses, voilà.
Que Vincent Exactement. A dit sur Indiana Jones 5, tu vois, tous ces trucs-là, quoi. Donc, ou Clémence. Donc, voilà, ça aussi, c'est hyper important.
C'est ce ton-là qu'il faut garder.
Et c'est vrai je veux pas non plus qu'on passe pour des playnews. C'est-à-dire que depuis un an, à Capture, le nombre de succès, de marques d'affection que les gens nous ont montré, on n'a jamais eu ça. Les scores, moi, j'ai pas regardé dernièrement les scores sur YouTube et tout, mais la dernière fois que je les ai vus, sur Lustig, le succès que vous nous avez apporté, c'est incroyable. Le succès que vous avez apporté au MOOC que Steph, dont il était rédacteur en chef, c'est énorme. Au moment où on vous parle, on va faire une projection au Club de l'Étoile, c'est plein, enfin voilà, on a plein de trucs. Et il y a un autre truc qui est très bien bizarre, c'est qu'on est reconnu aussi dans la rue de plus en plus. Je sais pas ce qui en quoi ça te concerne. Je ne cherche absolument pas ça. Moi, c'est le seul truc qui m'intéresse là-dedans, c'est déjà de vous rencontrer de visu, c'est toujours un plaisir. Mais c'est surtout que je me dis, ah bah, il y a des gens qui nous écoutent. On peut sembler, on est un peu seul, en fait, parfois ici et tout. Donc, que ce soit vos commentaires ou des trucs comme ça. Et surtout, quand on vous voit dans la vraie vie, c'est marrant. Et surtout, je me rends compte que, ouais, putain, on est écouté et sur un, enfin, je rencontre des gens dans des lieux improbables, quoi. Où je me dis, putain, il y a des gens qui sont là, qui travaillent là, qui nous écoutent. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'aussi on se rend bien compte qu'on n'a pas envie du tout de lâcher capture parce qu'on est en train de
C'est pas l'idée. C'est juste une manière de dire et c'est important de le préciser.
Mais faut vivre.
Voilà. Si vous le précisez, tout ça, ça a un coût en fait dans notre vie de tous les jours. Parce que voilà, on le fait, l'exigence qu'on essaye d'avoir, hein, en tout cas, voilà, ouais. L'idée de pouvoir diffuser au moins une émission par semaine, c'est-à-dire quand même 52 émissions minimum par an, quoi. En fait, on compte pas Noël, enfin, on prend pas les fêtes de Noël, on prend pas les fêtes du Nouvel An, hein, on est là.
Bah hein. Là, on va pas prendre les vacances d'été, hein.
Non, vous aurez un podcast chaque semaine, en fait, peut-être des fois deux émissions, hein, c'est suivant l'actualité, quoi. Bah voilà, c'est tout ça, c'est un vrai coup quand c'est fait en indépendant, quand c'est fait avec nos moyens à nous, les moyens que vous nous donnez, hein, en l'occurrence, quoi. Et voilà, on voulait
en
remercier.
On est en train de passer plein de caps. Voilà. Et c'est pour ça qu'on se permet aussi d'insister un plus que de coutume en ce moment dessus. Voilà.
On est presque en train de refaire un podcast.
Mais merci énormément à tous, hein, encore une fois. Merci Stéphane et Alain d'être aussi présents et de faire.
Ah là, il veut rajouter un truc parce que le podcast n'est pas assez long.
Je veux juste conclure sur le Tipeee. C'est en fait. Moi je vais pas vous faire une moi je m'occupe des comptes et je vais pas vous faire une liste je vais pas vous faire un inventaire de comptable, mais j'ai une phrase simple en fait qui vient des enfin c'est une phrase américaine que j'entends souvent que j'entendais souvent, c'est support your people, c'est-à-dire soutenez ceux que vous aimez, quoi. Donc si on a un peu d'importance pour vous,
attendez pas à ça.
Si on a un peu d'importance pour vous, voilà, c'est
surtout qu'on l'a pas du tout dit depuis 10 minutes.
Essayez de le faire. Ouais, c'est pour résumer.
Merci. C'est vrai. Il a raison. Oh là là.
Ah merci Alain Mercier. Merci à vous tous. Merci Julien Dupuis.
Merci voilà. Stéphane Moïsakis.
Et merci Tom Cruise d'avoir sauvé
merci
le cinéma.
Merci Tom Cruise.
Voilà. Allez à la prochaine.
Mais pas merci pour Rebecca Ferguson. Merde. T'as coupé trop tard.
À la prochaine.
J'ai pas coupé. Allez à plus.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.